travers cette conférence sur les symboliques du sonore en France au Moyen-Âge et à l'âge baroque, je voudrais en fait proposer un bilan de ma recherche et de ses grands axes, à travers une réflexion méthodologique qui pourrait concerner les apports éventuels de ce travail à l'ethnomusicologie, à l'histoire et à l'anthropologie historique, et même à la musicologie, je pense. En même temps, je voudrais aussi essayer de brosser le parcours, mon parcours de chercheur, à travers, depuis l'histoire sociale de la musique, c'est-à-dire en fait, en l'occurrence ici, l'écriture de l'histoire sociale du métier de ménétrier, je vais y revenir, à l'anthropologie musicale historique. C'est un parcours assez classique, finalement, qui va d'abord de la relativisation de l'objet premier, en l'occurrence c'est l'histoire, à un accroissement peut-être du niveau de généralisation et de théorisation. Cela s'inscrit aussi dans un projet qui est plus largement pluridisciplinaire. C'est un cheminement assez classique qui est peut-être celui de l'ethnographie et de l'ethnologie qui en découle, c'est-à-dire en fait quelque chose qui est essentiellement descriptif au départ, à l'anthropologie qui est finalement beaucoup plus conceptuelle, générale. Alors, je vais aborder cette conférence en deux parties. Tout d'abord, je vais dresser le bilan de l'étude de l'histoire de la musique ménétrière. Et ensuite, je vais expliquer comment je suis passé de cette histoire ménétrière à une recherche beaucoup plus anthropologique et beaucoup plus large. Et quels sont les bilans, finalement, quel bilan peut dresser de cette recherche anthropologique. Mais auparavant, je voudrais expliquer dans quelles conditions j'ai entamé ma carrière de chercheur, tout simplement, il y a 30 ans, parce que, au-delà de l'aspect anecdotique de la chose, je crois qu'il y a une conclusion théorique que je voudrais tirer tout à fait à la fin de cette conférence. Alors, il faut se resituer un peu plus de 30 ans en arrière, on est en 1978, je pense, et à cette époque-là, je suis un jeune musicien professionnel qui a pour objet de faire de la musique dite traditionnelle, occitane. Donc on est inscrit dans des projets revivalistes et patrimoniaux. Avec plusieurs amis musiciens, dont Claude de Sicre, nous avions fondé un groupe dont l'objet était de réhabiliter, ou peut-être même d'inventer tout simplement, un répertoire musical significatif et représentatif du pays toulousain, de la région toulousaine. Et donc nous étions répartis les tâches, et il m'était revenu d'aller prospecter dans les fonds d'archives, dans les fonds historiques des bibliothèques, pour voir si, par le plus grand des hasards, le plus grand des miracles, je ne pourrais pas mettre la main sur des partitions anciennes de musique populaire. Ce qui était une recherche, évidemment, enfin un objectif de recherche très naïf à cette époque-là. Et donc, je me suis dirigé vers le lieu peut-être le moins apte à ce type de recherche, mais à l'époque je n'en savais rien, c'est-à-dire les archives départementales de la Haute-Garonne. À l'époque, immense bâtiment, très impressionnant par son aspect, son volume, etc. Et là, j'ai donc essayé de chercher, à travers un certain nombre de mots-clés tout à fait classiques qui me venaient à l'esprit, du type musique, danse, bal, instrument de musique, fête, etc., voir un peu ce que ces archives départementales possédaient comme documents qui pourraient nous intéresser dans notre démarche. Évidemment, je ne trouvais rien. Fête, quelques rentrées sur la fête révolutionnaire, à l'époque, il ne m'intéresse pas du tout. Et je suis un peu dépité de cette première tentative un peu infructueuse, et tout d'un coup me vient à l'esprit un mot que j'ai entendu dans la bouche de certains musiciens populaires, traditionnels, de Gascogne, en particulier des joueurs de violon. Ce mot, c'est le mot ménétrier. Et ménétrier, dans la bouche de ces musiciens, dans les années 1970, cela désigne un musicien de tradition orale. C'est-à-dire en fait quelqu'un qui joue de la musique populaire, mais qui n'a pas appris la musique. Et ça vient s'opposer dans le vocabulaire en usage à cette époque-là, à musicien qui, lui, se réfère à quelqu'un qui connaît la théorie musicale, qui lit la musique. Donc, si on veut, il y a une dichotomie toute simple avec le musicien qui, en gros, est le musicien de musique classique, savante, et un petit peu de bal champêtre et des partitions complexes de bal champêtre du début du XXe siècle. Puis après, il y a le ménétrier qui est un musicien de tradition orale, on dit aussi de routine. Bon. Ce terme ménétrier me revient tout d'un coup à l'esprit, et je fais une tentative de recherche pour voir s'il y a bien une fiche cartonnée sur une telle entrée, ce qui me semblait assez improbable quand on voit que des termes aussi génériques que bal, danse, musique ne possédaient aucune fiche. Or là, surprise, il y a une fiche cartonnée sur l'entrée ménétrier. Et cette fiche cartonnée, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y a pas de recherche informatique dans les archives, cette fiche cartonnée me donne ce renseignement. Statut corporatif des ménétriers de Toulouse, 1492, la date du document. Et alors là, moi qui ne connais strictement rien encore évidemment à cette histoire et qui découvre le problème en même temps que je découvre cette fiche, immédiatement me viennent trois niveaux d'opposition qui attisent ma curiosité. Le premier niveau, c'est l'immense profondeur historique. Ménétrier, je l'ai entendu dans la bouche de musiciens populaires dans les années 1970, c'est-à-dire de gens qui étaient vivants et qui m'en ont parlé. Tout d'un coup, je découvre une fiche cartonnée qui me renvoie un document me renvoyant plus de 5 siècles en arrière. Deuxième niveau d'opposition, c'est visiblement le niveau de l'urbanité. Ménétrier toulousain. Il ne s'agit pas de ménétriers ruraux, campagnards, de villages, etc. Non, nous sommes en ville. Or là, les musiciens que nous avons connus dans les années 1970 étaient tous des musiciens ruraux. On était vraiment à la fin d'un processus, d'une tradition musicale. Et troisième niveau, alors là que je suppose, mais corporation, pour moi, ça évoque le professionnalisme. Or, les musiciens que nous avons connus dans les années 1970 n'étaient pas des professionnels. C'était souvent de bons musiciens, mais la musique ne constituait pas un niveau de revenu suffisant pour qu'ils puissent en vivre, et donc c'était en général pour eux une deuxième activité, voire même une activité tout à fait occasionnelle. Et bien entendu, ma curiosité a été piquée, j'ai commandé ce document, et on me l'a envoyé, et comme vous le voyez, c'est un document d'une grande surface, puisque en fait, j'ai su plus tard qu'il faisait 1,20 m sur 80 cm, un très grand parchemin, qui est entièrement recouvert d'une écriture fine, cursive, et dont la transcription de ce texte que j'ai commandé alors va prendre 40 pages dactylographiées. Je suis alors devant un parchemin dont j'apprendrai dans quelques années qu'il constitue le parchemin des statuts corporatifs les plus riches, les plus complets de toutes les corporations de ménétriers en France. C'est une chance inouïe parce que finalement, tout à fait par hasard, au bout d'un quart d'heure ou peut-être d'une demi-heure, je mets la main sur le document fondateur qui allait fonder vraiment mon action et mon activité de recherche. Naturellement, ce document, au début, je n'y comprends rien, parce que pour lire un tel document de la fin du XVe siècle, il faut avoir une formation de paléographie que je n'ai pas à cette époque-là. Mais néanmoins, je le parcours et je vois plusieurs fois le mot « hautbois » orthographié dans une graphie ancienne, et je suis moi-même joueur de hautbois également, et du coup, ma curiosité est d'autant plus attisée, et donc je décide de le faire transcrire et de commencer à travailler sur le contenu même de ce document. Et voilà comment finalement une recherche, parfois tout à fait par hasard, se découvre. La recherche, c'est aussi le fait du hasard. Mais pas seulement le fait du hasard. Je pense que les terrains que j'avais commencé à faire à cette époque-là, le terrain d'ethnomusicologie qui m'avait soufflé le mot et le concept de ménétrier, finalement a été déterminant dans le démarrage de cette recherche historique, et je reviendrai sur cette notion-là tout à fait à la fin de la conférence. Donc, je me suis engagé tout de suite dans une recherche à caractère historique, ethno-historique. Et ça, c'est un problème, parce que j'étais par ailleurs quelqu'un qui était très intéressé par l'ethnomusicologie, mes recherches, ma formation universitaire était également en ethnomusicologie. Or, l'ethnomusicologie ne se préoccupe pas beaucoup d'histoire, en tout cas, pas dans le domaine européen. D'autre part, la musicologie, elle, qui se préoccupe de l'histoire, qui recherche l'histoire des musiques occidentales, ne se préoccupe pas des musiques populaires. Or là, ma musique de ménétrier, c'est de la musique populaire. Je suis donc dans un thème de recherche qui n'intéresse, d'un point de vue disciplinaire, ni les musicologues, ni les ethnomusicologues. Je suis complètement au carrefour, finalement, de deux champs disciplinaires, et je me trouve un peu isolé au départ, mais finalement peut-être comme tous les chercheurs. Par contre, je constate que certains juristes qui ont travaillé sur le droit médiéval et sur certains métiers marginaux ont travaillé de façon tout à fait occasionnelle sur ce métier de ménétrier. C'est le cas par exemple d'un chercheur de la fin du XIXe siècle qui a fait sa thèse vraisemblablement de l'école des Chartes sur ce métier à Paris. Et donc il a produit une étude extrêmement intéressante dans la bibliothèque de l'école des Chartes dans les années 1880, sur la corporation des ménétriers de Paris. Mais cela reste très occasionnel et très localisé, puisque lui n'a cherché que sur ce métier à Paris même, et non pas d'une façon générique en France. D'autre part, un autre problème de cette recherche, je vais y revenir, c'est que j'ai été amené à faire de la musicologie sans musique, puisqu'en fin de compte, je suis dans une tradition orale, dans une perspective historique. Et finalement, je n'ai que très peu de renseignements sur les répertoires que jouent ces musiciens. J'ai quelques renseignements, mais qui sont extrêmement ponctuels, extrêmement vagues. Et dans toute l'histoire de la musique toulousaine que j'avais commencé à essayer de reconstituer, de ce métier de ménétrier, je ne vais trouver qu'une attestation d'un morceau de musique qui avait été composé par le maître d'orgue de la cathédrale Saint-Étienne, qui s'appelait Mathieu Lannes, qui était un compositeur du XVIIe siècle. Or, son livre d'orgue est toujours déposé dans les fonds anciens des bibliothèques municipales de Toulouse, mais ces 200 ou 300 pièces, peut-être, n'ont aucun titre. C'est une de ces 300 pièces, mais laquelle, je n'en sais rien. Et c'est la seule indication que j'ai eue de toute ma recherche sur les répertoires ménétriers à Toulouse. Donc, cela m'amène à faire de la musicologie sans musique, et une telle musicologie vous marginalise un peu dans la musicologie classique, savante, de la musique occidentale, puisque on sait bien que les musicologues travaillent avant tout sur l'écrit musical et sur l'œuvre. Moi, je n'ai pas d'œuvre. Je ne peux reconstituer qu'une histoire sociale. Alors, se pose tout de suite le problème des sources d'une telle histoire. Je viens de dire que je n'ai pas de partition. Bon. Mais quelles sont les sources à la disposition de l'historien qui veut s'intéresser à ce métier de ménétrier que je vais résumer, présenter rapidement ici, mais j'y reviendrai, comme un instrumentiste que l'on qualifierait aujourd'hui, de façon anachronique, de populaire ou de traditionnel. À l'époque, populaire et traditionnel, ça ne veut pas dire grand-chose. Populaire, certainement pas, et traditionnel, encore moins, bien sûr. C'est une notion plus récente. Mais aujourd'hui, c'est le profil que l'on adopterait pour essayer de définir ce ménétrier. En tout cas, musicien profane en France. Musicien de fête, musicien de danse. Musicien de la ritualisation sociale, je vais y revenir. Alors, si on s'intéresse à l'histoire sociale de ces musiciens, eh bien, en fait, il faut attendre le XIVe siècle. Il faut attendre 1321, les premiers statuts corporatifs de la Corporation des ménétriers parisiens. Ce sont les premiers que l'on connaisse en France. Les miens, à Toulouse, sont postérieurs, puisqu'ils datent de 1492. Si on veut travailler sur le statut professionnel de ces musiciens, sur le mode d'organisation professionnelle, c'est-à-dire, en fait, le corporatisme, si on veut travailler à tout ce qui concerne leur formation professionnelle, l'apprentissage, la maîtrise, etc., eh bien, il faut attendre le début du XIVe siècle. On ne peut rien faire avant. Il existe des musiciens avant, dont je vais parler, ce ne sont pas des ménétriers, mais comme ce sont des musiciens qui n'ont pas d'organisation professionnelle et qui n'ont pas d'écrit professionnel, bien entendu, cela limite la recherche historique sur ce thème. Par contre, si l'on s'intéresse à la fonction des musiciens et des premiers musiciens, on peut remonter avant les ménétriers, on peut s'intéresser aux jongleurs, comme je vais l'expliquer dans un instant. Et là, on peut s'intéresser, par exemple, à la distribution des rôles entre le producteur de poésie et de musique et l'interprète. On peut s'intéresser au premier grand répertoire, parce que, curieusement, si l'on n'a pas de répertoire de musique ménétrière, on a des répertoires de musique de troubadour. On peut s'intéresser, à travers la littérature médiévale, à brosser le portrait du jongleur. Cela, c'est tout à fait possible, et on peut arriver à cerner comme ça le cadre, le contexte de son activité musicale, et également sa fonction. Si l'on veut s'intéresser à l'évolution des instruments de musique, à leur organologie, à la façon dont on les joue, dont on les tient, alors on a de l'iconographie à partir du XIe siècle. Donc on voit bien qu'en fonction des objets, des centres d'intérêt, les sources renvoient à des époques différentes, mais de toute façon au Moyen-Âge. Avant le Moyen-Âge, l'histoire occidentale ne présente pratiquement aucune source. Nous sommes très loin de ce point de vue-là de la mémoire historique asiatique, par exemple, quand on va vous dire que telle lutte en Chine est apparue peut-être en 223 ou 224 de notre ère. De tels renseignements sont absolument inimaginables en Europe occidentale, où on n'a aucun renseignement qui renvoie aussi loin, sauf peut-être quelques renseignements archéologiques et encore. Alors, le grand problème d'une telle recherche, c'est que ces musiciens, ces ménétriers, n'ont jamais été, ou que très rarement, eux-mêmes producteurs de sources documentaires. L'oralité est une constante de leur activité. Et cette oralité, elle est multiple. D'abord, elle existe dans l'activité, dans la réglementation même professionnelle. Ces ménétriers, quand ils sont en ville, je vais y revenir, s'organisent en corporation, déposent leur statut corporatif, bien entendu, mais une fois que cette opération est faite, une fois que le métier est créé et scellé par ces statuts corporatifs, on a l'impression que toute la vie professionnelle se passe dans l'oralité. pas de contrat d'engagement, pas de contrat ou peu de contrat d'association, pas de lettre de maîtrise en tout cas. On a l'impression que la parole donnée, finalement, a une véritable valeur juridique et qu'elle dispense peut-être ces musiciens de se livrer à une véritable production archivistique qui aurait évidemment intéressé l'historien avec quelques siècles de retard. Cette oralité, elle est littéraire aussi. Certains ménétriers savent écrire et lire. N'imaginons pas tous les ménétriers dans la tradition orale. Dans les grandes villes, et on va le voir, il y a des ménétriers d'élite qui, eux, savent tout à fait lire, savent signer, on va s'en rendre compte tout à l'heure. Mais néanmoins, ils n'ont pas une tradition d'écriture, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'écrivent pas de mémoire, d'autobiographie, ils ne s'écrivent pas, il n'y a pas de tradition de correspondance, par exemple. Dans ce contexte, on ne peut que mesurer l'intérêt tout à fait exceptionnel et à la fois unique d'un ménétrier sur lequel j'ai travaillé un petit peu, qui était un ménétrier languedocien du XVIe siècle, qui s'appelait Auger Gaillard, et qui a été un personnage hors du commun, puisqu'il a successivement occupé des fonctions extrêmement différentes. Il a d'abord été mercenaire, puis ensuite il a été moine, ce qui est quand même relativement antinomique. Il a aussi été charron, donc artisan, fabricant des roues de charrette, etc. En même temps, ce qui lui a donné l'occasion de travailler le bois. Et puis, violoniste. De ce fait, il a animé un très grand nombre de bals, de processions. Alors ça aussi, c'est assez antinomique avec l'état de moine antérieur. Et puis, c'est quelqu'un qui a terminé sa vie comme poète officiel des États de Navarre. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il a laissé une œuvre d'un peu plus de 300 poèmes qui sont connus et publiés à ce jour et pour lesquels certains sont totalement autobiographiques. Et là, il nous raconte comment, lui, ménétrier violoniste, au XVIe siècle, il anime, par exemple, un bal, comment il anime un banquet dans des familles nobles, comment les processions se déroulent, comment l'émulation existe entre des musiciens urbains, etc. Alors évidemment, c'est toujours au détour d'une phrase, d'un vers dans un poème, mais quand on pioche comme ça dans cette œuvre autobiographique poétique d'un peu plus de 300 poèmes, on arrive à reconstituer un témoignage de tout premier plan et qui est totalement unique. Sinon, l'oralité ménétrière, c'est une oralité, l'oralité littéraire, on est totalement dans le domaine de l'oralité, on n'a pas d'écriture ménétrière. Oralité musicale également, je l'ai dit, ces musiciens exercent leur profession exclusivement dans le champ de l'oralité. Les musiques ne sont pas notées, ou très rarement. Alors quand elles le sont, c'est dans un but mnémotechnique, et nous avons comme ici, par exemple, des tablatures qui sont en fait une graphie du jeu musical. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas ce type d'écriture musicale et ce type de document, les lignes que l'on voit ici ne sont pas du tout l'équivalent des lignes actuelles de la portée musicale. On voit ici quatre lignes qui en fait correspondent aux quatre cordes du violon. Donc on a dessiné le manche du violon, sauf que le dessin du manche n'apparaît pas. Et en fait, la corde la plus grave se situe en bas. Dans cette tablature, c'est le contraire. La corde la plus grave se situe en haut, la corde la plus aiguë se situe en bas. Et ensuite, on a simplement indiqué le numéro des doigts. 0, c'est la corde jouée à vide. 1, c'est l'index, puis le majeur, etc., jusqu'au dernier doigt, le plus petit, qui est donc le doigt 4. Et on a ainsi l'indication du jeu. C'est simplement une indication mnémotechnique, parce qu'on voit très bien ici qu'il n'y a aucune indication rythmique, par exemple, que les airs ne sont même pas notés en totalité, ce sont les premières notes, et en fait c'est une façon de se souvenir des répertoires. Cette partition est une partition qui date du XVIIe siècle, enfin cette tablature, et voici ce document dans sa totalité, tel qu'il a été conservé dans les réserves de la Bibliothèque nationale de France, et tel que François Lesure me les avait communiqués dans les années donc 90. Donc on connaît l'usage de la tablature, mais par contre il n'y a pas de partition musicale avec une utilisation du solfège moderne. On connaît par contre, dans certains répertoires de cours, puisque les ménétriers jouent aussi à la cour et animent les bals de cour, eh bien à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, nous avons quelques notations de ces répertoires chorégraphiques de cour, notamment réalisées par Praetorius au début du XVIIe siècle. Mais cela reste extrêmement marginal, extrêmement ponctuel, et ça n'est pas spécifiquement représentatif d'une tradition française de musique ménétrière, puisque ça peut aussi s'adresser à des ménétriers allemands ou d'autres pays européens. Enfin, dernier problème, avant d'examiner plus précisément le corpus des sources, c'est que la musique ménétrière, qui a une véritable fonctionnalité, notamment celle, on va le voir, qui consiste à ritualiser le pouvoir politique, donc les rois, les seigneurs, etc., n'a jamais eu, d'un point de vue dogmatique, les faveurs de l'Église. Et là, c'est un vrai problème, parce que cette musique instrumentale, d'un point de vue dogmatique et théologique, en fait, est perpétuellement illicite. Pourquoi ? Parce qu'elle incite à la danse. Et la danse, évidemment, est condamnée par le discours chrétien, catholique, puisque favorisant le rapprochement des corps, etc. L'exubérance, le côté excessif, qui sont autant de marques d'orgueil, donc autant de marques du mauvais chrétien. Alors, quelles sont donc les sources à la disposition de l'historien ? Eh bien, d'abord, les archives. C'est dans les archives que j'ai trouvé mes statuts corporatifs. Et ces archives, d'abord, ce sont les minutes notariales. Les minutes notariales, ce qu'on appelle des minutes, ce sont les consignations écrites, originales, d'actes, soit privées, soit publiques. Et les archives en regorgent, évidemment, en fait, c'est leur raison d'être. Alors, tous ces actes privés, ce sont des contrats de mariage, des testaments, des legs, des inventaires après décès. L'inventaire après décès est une source très intéressante puisque tous les biens du mourant sont consignés de façon extrêmement précise et on arrive comme ça à savoir comment dans certaines familles et donc finalement dans une certaine classe sociale, certains instruments avaient pénétré à certaines époques. Puisque quand un mourant dans ses biens possède 2 ou 3 clavecins, 7 ou 8 luttes, etc., on arrive comme ça à retracer la pénétration de certains instruments de musique dans les milieux sociaux à certaines époques. Donc l'inventaire après décès est une source qui a une application statistique extrêmement intéressante. Mais il y a aussi des archives publiques, toutes celles qui concernent les statuts corporatifs, les contrats d'association de musiciens et les contrats d'apprentissage. Les contrats d'apprentissage sont assez nombreux par contre. Les contrats d'association aussi, en tout cas dans les villes qui ne possèdent pas de corporation. Après par contre, comme je le disais en début de conférence, les lettres de maîtrise sont totalement absentes. Alors cette documentation est extrêmement riche, elle est absolument énorme, elle est volumineuse. Le problème c'est que ces documents d'archives sont vierges pour la plupart de toute investigation. Et celles qui ont été dépouillées, les documents qui ont été dépouillés, n'ont pas fait l'objet d'une analyse systématique pour la bonne raison que les archivistes qui les ont dépouillés ne connaissent pas forcément la musique ménétrière, c'est un peu normal. Et donc, même quand on connaît ces documents, quand on les a manipulés, quand on les a parfois localisés, nous n'avons pas de table ou d'index suffisamment méthodique permettant de nous les présenter aujourd'hui. Donc ce fonds est globalement encore méconnu, parce que encore non dépouillé, et gardera encore longtemps ses secrets, et peut-être d'ailleurs, je l'espère d'une certaine manière, c'est le lot de tout chercheur finalement, sera de nature par certains documents à contredire certaines de mes conclusions par exemple. Pour donner une idée de l'importance numérique de ces fonds d'archives, une loi en 1928 a permis aux notaires de verser ces minutes notariales qu'ils avaient obligation de conserver. Quand ces études notariales étaient dans Paris intramuros, ce versement s'est fait aux archives nationales. Et quand ces études étaient en dehors de Paris intramuros et à plus forte raison dans les villes de province, ce versement s'est fait aux archives départementales des nouveaux départements. Eh bien, pour Paris intramuros, simplement, en 1960, c'est-à-dire 32 ans après la promulgation de cette loi, ce sont 80 millions de documents qui sont versés, pour un total de 200 millions de fiches, ce qui montre évidemment le volume extraordinaire de cette mémoire archivistique, et en même temps la place centrale qu'occupe le notaire dans la société d'Ancien Régime. Au-delà de ces archives notariales, l'historien dispose de tout un ensemble de documents qui découle de l'activité publique des ménétriers. Puisqu'en fait, ces ménétriers sont des professionnels, donc chaque fois qu'ils font de la musique, on va trouver des traces comptables des fêtes et des personnels, mais on va prendre un certain nombre de réglementations contraignantes pour essayer de réglementer leur activité. Alors évidemment, il y a des délibérations, des ordonnances municipales, des rapports de police, des arrêts de parlement, des ordonnances royales, des archives ecclésiastiques, ce sont des fonds très importants finalement, complètement épars comme tous les fonds d'archives, et qui renseignent aussi sur le statut des musiciens et sur la difficulté qu'il y a dans ces époques anciennes et reculées d'exercer un métier souvent marginal et dérangeant au nom de la défense des bonnes mœurs des valeurs morales et religieuses et au nom du maintien de l'ordre. Au-delà des documents d'archives, il y a des sources écrites qui sont nombreuses, bien entendu, qui ne sont pas à négliger, qui sont des témoignages, des récits, des chroniques, de la littérature en général. Le problème, c'est que ces sources écrites et littéraires, quand elles évoquent l'acte musical ou chorégraphique, elles ne font plus que l'évoquer, que le suggérer, plutôt qu'elles ne l'explicitent. On s'aperçoit donc que l'historien a un problème de taille avec les traces d'archives ou même les sources écrites, c'est que toutes ces sources proviennent d'un monde qui est extérieur à celui des musiciens et donc de leur musique. Il faut donc apprendre à décrypter ces textes et à lire entre les lignes. Autre type de source extrêmement importante pour cette conférence, c'est l'iconographie, musicale. Tout d'abord, au Moyen-Âge, à l'époque des troubadours et des jongleurs. Ces sources iconographiques sont extrêmement nombreuses. Soit elles représentent des troubadours célèbres, qui sont identifiés même dans la représentation iconographique. Ou alors, elles figurent des scènes de jonglerie et des jongleurs. Les jongleurs, comme je vais l'expliquer, qui sont les colporteurs de la production des troubadours. Ces jongleurs sont à nouveau soit identifiés, ce sont des grands jongleurs de cour, soit des musiciens anonymes, et à ce moment-là, on va mettre en avant le contexte, la musique et la danse. Et en particulier, on va insister sur la symbolique du mauvais geste, sur l'aspect convulsionnaire, peut-être, de la gestuelle des jongleurs, la contorsion, le saut dont on dit qu'il prédispose à le mauvais chrétien vers l'enfer. Mais aussi, la place du musicien dans l'image est très révélatrice, puisque dans les parchemins, par exemple, souvent ces musiciens sont dans les marges. Et donc, oui, effectivement, ils sont marginaux. Hein. Alors, ce qu'on lit à travers tout cela, c'est la dévalorisation de l'activité du jongleur, et on la lit déjà dans des époques anciennes, 12e, 13e siècle. Quand la musique ménétrière émerge, à partir du début du 14e siècle, alors l'iconographie musicale aussi se poursuit. Mais le problème pour ce qui est de la musique française, de la musique populaire française, c'est que cette iconographie musicale n'est pas très riche. Contrairement à d'autres régions, comme les Flandres par exemple, la Hollande, les Pays-Bas, qui ont produit, on le sait bien, une iconographie de la musique populaire qui est extrêmement riche, avec de grands peintres évidemment, comme Bruegel, Teniers, etc. En France, on n'a pas cette tradition-là, et en plus, quand on travaille dans la France méridionale, ce qui était mon cas, on est privé d'une iconographie musicale populaire pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle. Et ça, c'est un trait spécifique, justement, de l'histoire de l'art de la France méridionale. Malgré tout, il existe un certain nombre de documents à caractère tout à fait contextuel, dont la portée documentaire n'est pas inexistante, puisque des peintres, des graveurs, des enlumineurs, des sculpteurs étaient au service des grands pouvoirs, bien entendu, et sur commande devaient figurer des contextes officiels et politiques. Des fêtes politiques, des entrées royales, des réceptions, mais aussi des concerts, des bals nobles ou bourgeois, de grandes processions officielles, politiques, religieuses, etc. Malgré tout, le nombre de ces œuvres reste assez restreint, et souvent leur intérêt reste assez limité, parce qu'en fait il s'agit de reconstitutions dirigées et partiales, dans lesquelles les scènes musicales et chorégraphiques ne sont que rarement représentées. Alors quels sont les contextes que l'on peut lire à travers cette iconographie musicale? Le divertissement seigneurial, le banquet seigneurial et royal, qui est extrêmement important, les fêtes dynastiques, c'est-à-dire en fait tout ce qui concerne le sacre, le mariage des rois, etc., les fêtes urbaines, avec les réjouissances publiques, la vie populaire, et peut-être intime et familiale, alors les mariages, les danses, les jeux, etc., la musique à la cour, le concert noble, la danse en milieu noble. À partir du XVIe siècle, l'art du portrait, qui parfois concerne aussi des musiciens populaires, voire marginaux. L'environnement de la musique et son contexte, les grandes places, les extérieurs, les théâtres plus tard. Mais aussi toute une iconographie symbolique qui est celle d'allégories, de scènes de la mythologie, des scènes et des sujets religieux, des scènes à caractère philosophique comme les vanités par exemple. On s'aperçoit que l'iconographie musicale, finalement, est assez peu documentaire et qu'il existe un décalage important entre les sources écrites et les images. Et je prendrai l'exemple de la musique toulousaine, ménétrière, que je connais bien, puisque c'est sur cette musique-là que j'ai commencé ma recherche. L'activité ménétrière est très importante à Toulouse. On connaît un ensemble emblématique qui s'appelait la couble des ménétriers de Toulouse, des capitouls de Toulouse, qui étaient les anciens magistrats municipaux. Couble qui est un mot d'origine occitane, le verbe coblar, que l'on retrouve également en catalan d'ailleurs, et qui signifie tout simplement s'assembler. Alors, cet orchestre, la couble, avait un rôle emblématique très important parce que c'était l'orchestre officiel, emblématique, protocolaire des anciens magistrats municipaux de Toulouse que l'on appelait les capitouls. Cette histoire ménétrière est d'autant plus importante que l'on en trouve encore aujourd'hui dans certains grands monuments toulousains, on en trouve encore aujourd'hui la trace. Par exemple, le cloître de l'église des Jacobins que l'on voit ici, dans lequel il y a un certain nombre de stèles funéraires, possède une stèle à la mémoire de Pierre Villette. Pierre Villette, qui était un ancien syndic de la Corporation des Ménétriers de Toulouse et qui a été musicien de la couble des capitouls, donc joueur de hautbois. C'est extrêmement rare de trouver de la documentation à caractère funéraire concernant des ménétriers en France. Et cela, d'autant plus que ici, c'est quand même un lieu emblématique toulousain. Le cloître des Jacobins, c'est au cœur de Toulouse. Les Toulousains connaissent ce lieu. Et avoir une stèle dans le cloître des Jacobins, cela montre l'importance de ce personnage à son époque. Donc le métier de ménétrier, on le verra, surtout de ces grands ménétriers urbains d'élite, c'est un métier parfaitement envieux et qui occupe une place importante dans l'échelle sociale de la musique instrumentale de cette époque. Cet orchestre toulousain, cette couble, elle a un service dit ordinaire. Alors c'est l'animation du cérémonial capitulaire. Les capitouls passent leur temps à se promener tout au long de l'année dans les rues toulousaines. On compte à peu près une soixantaine de processions, réceptions, messes, etc., qui sont régulières, c'est-à-dire tous les ans, qui ont lieu à date fixe, essentiellement le dimanche, mais qui sont aussi des cérémonies administratives, quand les capitouls sont intronisés tous les ans, etc. Il y a aussi des fêtes commémoratives qui reviennent à date fixe, et puis tout un ensemble de fêtes, de toute façon, qui reviennent régulièrement, comme la fête des Jeux floraux à Toulouse, etc., et qui ont lieu à date fixe dans le calendrier. Pour ces fêtes-là, la couble intervient de façon officielle et publique. Et puis, il y a ce qu'on appelle le service extraordinaire. Alors, ça, c'est tout un ensemble d'événements officiels imprévus. Par exemple, une entrée royale à Toulouse, ou une entrée d'un grand personnage de l'État, une fête dynastique, eh bien voilà, la naissance du dauphin, ça n'arrive pas tous les ans ou à date fixe, évidemment. Donc voilà un événement particulier, officiel, ponctuel, que l'on va célébrer en grande pompe dans toutes les villes du royaume, ou le mariage du roi, les fiançailles, etc. Les victoires militaires, les publications de la paix. Tout cela produit un nombre important de fêtes officielles, extraordinaires, des événements imprévus, bien sûr. Alors l'ensemble de ce dispositif festif, des services extraordinaires, est impressionnant. À Toulouse, on compte 21 entrées royales pour les XVIIe et XVIIIe siècles, un très grand nombre d'entrées de toutes sortes qui est absolument inchiffrable à cette époque-là, 57 fêtes militaires entre 1643 et 1762, 11 publications de la paix, 36 fêtes dynastiques, 5 fêtes de la cité, 13 fêtes religieuses imprévues, canonisation, translation de reliques, etc. etc. C'est-à-dire en fait, au-delà du service ordinaire de 60 processions et messes par an, les ménétriers de la couble sont sans cesse dans les rues, dans les places, dans un type de prestation tout à fait protocolaire et publique pour des événements imprévus qui sont finalement extrêmement nombreux. Or, quand on regarde la production iconographique de la fête officielle toulousaine, une seule de ces représentations montre les ménétriers de la couble en situation. On est en 1701. C'est-à-dire en fait, sur un peu plus de 3 siècles d'existence avérée de cet orchestre, avec une activité aussi importante, on ne connaît qu'un seul document iconographique. Ce qui montre bien qu'il y a un décalage extrêmement important entre les sources écrites, contextuelles, littéraires, d'archives, et l'iconographie auxquelles toutes ces sources et tous ces événements ont donné lieu. J'ai dénombré 18 œuvres qui figurent des fêtes officielles dans l'histoire toulousaine. Ces fêtes sont parfaitement connues, on en connaît la relation, les chroniques, on a tous les documents d'archives qui permettent de les renseigner historiquement. Et dans toutes ces fêtes, Il y a systématiquement la présence de cette couble des ménétriers des Capitouls de Toulouse. Il y a aussi parfois, pour certaines grandes fêtes, les entrées royales, d'autres musiciens, les musiciens du roi de Versailles qui viennent à Toulouse, etc. Donc on a tous ces renseignements. Eh bien, sur ces 18 œuvres, 3 seulement figurent des musiciens. 2, ce sont des officiers joueurs de trompette qui ont une place totalement marginale dans l'œuvre picturale et qui sont simplement là, dans un coin peut-être du tableau. Et un seul document montre ces musiciens de façon centrale, on le verra tout à l'heure. C'est donc très peu. Le constat est le même avec les tziganes, et là, pas simplement à Toulouse, mais en Europe et en France. Leur présence est ancienne. En France, elle est attestée dès le début du XVe siècle, peut-être même avant. L'importance de leur activité musicale est constante, bien entendu. Et on connaît une peinture importante d'un point de vue numérique. Il y a de nombreuses œuvres qui représentent ces tziganes. Mais ces thèmes sont essentiellement naturalistes, c'est-à-dire qu'en fait, on les représente sur la route, dans des paysages, dans des campements qui sont toujours à l'extérieur des villes, alors que fréquemment, les tziganes campent aux abords des villes, parfois sous les remparts. On les présente dans des ruines, des vestiges archéologiques, ce qui est peut-être une façon de, je sais pas, de représenter graphiquement une ancienneté immémoriale de leur mémoire, ou d'une origine mythique qui remonterait dans la nuit des temps, etc. Donc il y a des espèces de codes, comme ça, iconographiques, qui sont récurrents. En tout cas, ce qui est surprenant, c'est qu'on ne les présente pratiquement jamais au contact des populations autochtones. Alors que les tziganes ne vivent que des populations autochtones, bien sûr. La seule activité dans laquelle on les voit au contact de personnes autres que des tziganes, bien, c'est le thème de la bonne aventure. Puisque là, les femmes tziganes font de la divination, évidemment, notamment, surtout pour des femmes françaises. Bon, en dehors de ce thème de la bonne aventure, jamais les tziganes ne sont représentés au contact des populations autochtones. Et en tout cas, jamais dans une activité musicale, et très très rarement dans une activité chorégraphique. Donc cette iconographie fait globalement défaut, et ça complique d'ailleurs la tâche, bien entendu, de l'historien des musiques tziganes en Europe et en France. Dans l'ensemble, on va dire que l'iconographie musicale est beaucoup plus largement symbolique et allégorique que véritablement documentaire, même si elle permet de conclure à la symbolique des instruments figurés et représentés. Et alors, plus qu'une réalité contextuelle qui est souvent inexistante et que l'on chercherait en vain, bien sûr, cette iconographie musicale révèle nos référents culturels et nos modes de représentation symbolique. Et en ce sens, elle est objet historique et objet documentaire, c'est-à-dire qu'en fait, on peut refaire une anthropologie historique et culturelle par l'étude de cette iconographie, et pas seulement pour essayer d'étudier des contextes musicaux qui seraient beaucoup plus incertains et souvent d'ailleurs inexistants. Alors, je voudrais maintenant présenter rapidement le relevé de cette histoire ménétrière et ses conclusions pour montrer un peu quelle a été ma première activité de recherche pendant environ une quinzaine d'années qui ont couru en gros de 1980 à 1994-95. Le métier de ménétrier, c'est un métier qui apparaît donc, dont on voit le mot, l'occurrence, dans les métiers, l'éventail des métiers du Moyen-Âge, au tout début du XIVe siècle. Même si le mot ménestrel, comme je vais l'expliquer, est un mot qui apparaît au XIIIe siècle. Avant le ménétrier, il y a des jongleurs. Et je vais expliquer la différence sociale et artistique entre ces deux personnages musicaux médiévaux. Le jongleur est intimement associé au troubadour. En fait, les deux forment un couple indissociable. Le mouvement troubadouresque est né en France et principalement en Pays d'Oc à la fin du XIe siècle. Le tout premier troubadour que l'on connaît, c'est Guillaume IX de Poitiers, qui était un comte, et qui nous montre bien que les troubadours sont les plus hauts personnages de l'élite féodale. Les troubadours, ce ne sont pas du tout des producteurs et des poètes populaires. Et précisément parce que leur extraction est noble, et qu'ils représentent l'élite de la féodalité, cet état social et politique leur interdit d'aller colporter eux-mêmes leur propre production littéraire. En tout cas, tout à fait au début du mouvement troubadouresque, ça n'est pas possible. Et on va donc s'attacher les services d'un colporteur artistique, à la fois des poèmes, des musiques, qui est donc le jongleur, dont l'étymologie latine est latine, c'est le mot joculator, qui est l'amuseur, le bouffon, le joueur. Ce jongleur, c'est un personnage qui est totalement lié au troubadour et qui a une fonction artistique extrêmement importante, polyvalente. Il n'est pas seulement poète, raconteur, déclamateur ou musicien ou chanteur. Il est aussi, il a une fonction artistique totalement polyvalente, très large. Il peut être montreur d'animaux, il peut être acrobate. Mais ce qui est souvent remarqué chez le jongleur, c'est son art du conte. Et dans de nombreux fabliaux médiévaux, on voit un seigneur qui demande au jongleur de raconter de bonnes histoires toute la nuit, un peu thème récurrent des mille et une nuits, etc. Cette activité qui est en fait une activité sans cesse et pour laquelle le jongleur du XIIe et XIIIe siècle, le jongleur de cour, est très souvent sollicité. À partir de la fin du XIIIe siècle, en tout cas, tout au long du XIIIe siècle, les rôles de producteur et d'interprète vont en fait s'entrecroiser. On connaît un certain nombre de troubadours qui vont décider eux-mêmes de colporter leur production à partir du XIIIe siècle et qui vont outrepasser cette espèce de tabou social. Et puis certains jongleurs, à force de colporter, de déclamer, de réciter, de chanter la production poétique des troubadours, vont se mettre eux-mêmes à trouver, troubadour, ça vient de l'occitan trobar qui veut dire composer, trouver, inventer. Donc ils vont se mettre eux-mêmes à devenir des troubadours finalement. Et ces rôles s'interpénètrent, ce qui fait qu'au XIIIe siècle, il est assez difficile de distinguer précisément entre le producteur et l'interprète, entre un troubadour et entre un jongleur. C'était facile au siècle précédent, ça n'est plus vraiment au XIIIe siècle. Et certains de ces jongleurs sont très appréciés, ils vont rester dans les cours de façon durable, on va même parfois jusqu'à en faire des chevaliers, de ces jongleurs d'extraction populaire, on va parfois leur donner des fiefs, donc on va leur donner des terres, on va leur donner l'armure, le cheval, on va les adouber, donc il y a une véritable ascension sociale de certains grands jongleurs de cour, que l'on va commencer à appeler des ménestrels. Le ménestrel, c'est le grand jongleur de cour qui va s'enraciner dans les cours pendant un certain laps de temps et donc mettre fin peut-être à cette activité itinérante qui est bien la caractéristique du jongleur. Le jongleur, c'est un personnage solitaire qui sans cesse propose sa pratique artistique et se loue dans les cours, dans les grandes familles, etc., auprès des seigneurs, mais qui est un itinérant, un nomade finalement. Toujours seul dans l'exercice de son art, et donc de ce point de vue-là, professionnellement inorganisé. Il est professionnel, bien sûr, puisqu'il vit de son activité musicale et artistique, mais le jongleur ne constitue pas un métier médiéval, il n'y a pas d'organisation corporatiste professionnelle de jongleurs. Cela, ça n'existe pas. Pour une raison simple, toute simple, c'est que ces musiciens sont des itinérants. Et que, on va le voir, pour faire une corporation, il faut être enraciné dans une ville. Or, leur absence d'enracinement urbain leur interdit de fonder une corporation, et de ce point de vue-là, ils sont inorganisés professionnellement. Alors, au XIIe siècle, l'Occident, et donc la France, connaît une histoire politique particulière que Jacques Le Goff a intitulée « La Grande Renaissance ». Pour lui, la Renaissance du XVIe siècle est une petite Renaissance. Au Moyen-Âge, au XIIe siècle, se passe un phénomène politique en profondeur, qui va métamorphoser toute la société médiévale et qui est un phénomène d'importance, puisque auparavant, deux pouvoirs se partageaient la société occidentale, c'était l'Église et la féodalité. Les travailleurs, les paysans, etc., ne constituaient pas de groupe social. Et ces deux pouvoirs, féodalité et Église, vont se trouver tout d'un coup menacés par de nouveaux pouvoirs émergents. Par exemple, les villes. Les villes qui se constituent en gouvernement urbain, et de ce fait qui vont empiéter les prérogatives du seigneur, qui vont réclamer au seigneur des droits, des privilèges, etc., donc qui affaiblissent finalement le pouvoir du seigneur. Les corporations, eh bien, les artisans, les commerçants, s'organisent en corporations professionnelles, c'est les lointains ancêtres des syndicats, d'une certaine manière, et ces corporations professionnelles vont elles aussi réclamer des droits et des privilèges au seigneur. Quand c'est à Paris, elles vont les réclamer au roi. Mais l'Église, elle aussi est menacée, parce que c'est l'époque de l'apparition des ordres mendiants qui remettent en cause le luxe de l'Église, le faste, le côté très finalement temporel du pouvoir ecclésiastique. Et puis le roi, à partir du XIIIe siècle, le roi de France se déclare de droit divin, donc il devient officiellement le représentant de Dieu sur terre, ce qui va tout d'un coup provoquer une concurrence importante avec le statut du pape, et on connaît évidemment une lutte politique sans merci entre la papauté et la monarchie française. Donc ces deux pouvoirs anciens de la féodalité et de l'Église vont se trouver menacés par tous ces contre-pouvoirs émergents. comment vont-ils essayer d'établir leur autorité et comment vont-ils se marquer par la musique. Ça, c'est complètement nouveau. Et donc, du coup, il va y avoir une offre de la part de tous ces grands pouvoirs, le roi, les seigneurs, parfois certains grands ecclésiastiques, ce qui est quand même assez piquant quand on voit le discours de l'Église sur la musique instrumentale, par ailleurs. Mais il va y avoir une offre de tous ces grands pouvoirs et de toutes ces cours de constituer des ensembles parfaitement institutionnalisés, stables, fixes, à leur service. Et donc maintenant, ces musiciens, au lieu d'aller dans les cours, de se déplacer, d'aller divertir les seigneurs par des chants, des histoires, des bons tours, etc., ils vont avoir pour fonction de représenter par leurs instruments, par leur musique, par leur nombre, par l'aspect collectif de leur musique, la puissance du pouvoir. Et là, il y a une homologie symbolique, toute simple, entre la puissance du pouvoir à représenter et l'éclat musical, c'est-à-dire le nombre de musiciens en jeu, la puissance de leur instrument, etc. Ces musiciens deviennent tout simplement des serviteurs. Bon, il y a un aspect plus contraignant à leur métier. Et le nom latin de serviteur, c'est ministère, ministre. Hein. Et au-delà de ministère, c'est ministrellus, ce qu'a donné donc ménestrel au XIIIe siècle. Et ces musiciens vont être considérés maintenant comme faisant partie du personnel des cours, des officiers au service des seigneurs, des rois, etc. Et donc cela devient tout simplement des serviteurs, des ménestrels, des ménestriers, des ménétriers. Voilà l'origine étymologique de ce métier, qui est totalement différente, évidemment, du jongleur. Les ménétriers, ce ne sont plus que des instrumentistes. Ils n'ont plus pour fonction d'aller réciter la poésie des troubadours, qui de toute façon n'existe plus, puisque le dernier troubadour, pratiquement, c'était Guiraud Daniel, qui a vécu à la fin du XIIIe siècle. Donc au XIVe siècle, il n'y a plus de troubadour. Et les ménétriers deviennent uniquement des instrumentistes qui ont une fonction avant tout protocolaire, emblématique et politique. Comme ils sont maintenant au service des pouvoirs, ils sont enracinés, bien sûr, dans les villes, bien entendu. Et donc cet enracinement urbain leur permet de s'organiser professionnellement. C'est ce qu'ils font en adoptant le seul modèle d'organisation corporative qui existe au Moyen-Âge, qui est la corporation. La corporation, c'est un système à la fois qui permet de réglementer le métier et en même temps qui est un système d'entraide, puisque on dit aussi des corporations qu'elles sont des confréries professionnelles. Ces corporations, ces confréries professionnelles sont mi-religieuses, mi-professionnelles. Il y a toute une vie religieuse du métier, puisque par exemple, tous les ans, les artisans, mais en l'occurrence ici les musiciens, se réunissent dans l'une des grandes églises de la ville. Une chapelle leur est dédiée, et dédiée à leur métier, et c'est dans cette chapelle que se tiennent les assemblées professionnelles, que l'on élit les nouveaux chefs de métier, etc. Cet avènement des ménétriers, il se voit évidemment dans l'iconographie maintenant, bien entendu. Je prendrai deux documents qui sont des documents languedociens, jusqu'il y a peut-être une quinzaine d'années qui étaient totalement inconnus, puisque nous avons ici deux vignettes. Enfin, deux représentations, ce ne sont pas des vignettes, ce sont des peintures sur bois. Ici, nous voyons deux musiciens oboïstes, et ici, nous voyons deux autres musiciens, joueurs de cornemuse et de tambour, mais en fait, qui forment un groupe de quatre musiciens. Quand on voit les costumes, ces quatre musiciens sont deux par deux en se regardant face à face. Ce sont des ménétriers. Ces représentations datent du XVe siècle, et elles proviennent d'un château languedocien, Hérolté, à Capestan. Et en fait, ces scènes musicales ont été dessinées sur les poutres du château. Et pour la petite histoire, ce château a failli être démoli avant que l'on s'aperçoive, il y a à peu près une quinzaine d'années, que les poutres étaient en fait un véritable trésor patrimonial et artistique. En tout cas, on voit à partir du XVe siècle ces ménétriers maintenant représentés dans les cours, comme ici en Allemagne, par exemple, avec ce manuscrit, le manuscrit du Codex Manes, qui est un grand manuscrit allemand du XVe siècle, qui regorge de scènes musicales et qui permet de voir des ménétriers maintenant dans tout un ensemble de contextes, de cours. Et ici, nous avons donc tout un ensemble de musiciens qui sont des joueurs de vielle à archer, mais de cithare aussi, de psaltérion, mais également de hautbois, de cornemuse, de flûte, etc. Ces corporations ménétrières vont commencer évidemment à avoir une archivistique, je l'ai dit tout à l'heure, et cette archivistique se lie aussi à travers l'art du blason et de l'image de confrérie. Nous avons ici des documents qui nous montrent le blason de la communauté des maîtres à danser et joueurs d'instruments de Paris. C'est un document de la fin du XVIIe siècle et qui a dressé un armorial de tous les métiers parisiens de cette époque-là, de la fin du XVIIe siècle. Tout à fait en bas, nous voyons ce blason agrandi ici de la communauté des maîtres ménétriers, des maîtres à danser et des joueurs d'instruments de Paris, dont le dessin représente deux violons dont les archets sont entrecroisés. En même temps, j'ai dit que les corporations sont également des confréries professionnelles, et nous connaissons en 1691 une image de confrérie, l'image de la confrérie Saint-Julien des Ménétriers de Paris, qui est en fait la corporation des ménétriers parisiens, et qui nous montre les deux saints patrons de cette confrérie professionnelle. La corporation, c'est un système très hiérarchisé. À la base, il y a l'apprenti. Alors l'apprenti, il est mis pour une durée variable auprès d'un maître, il étudie auprès d'un maître ménétrier. Si l'apprenti est mis jeune auprès du maître, eh bien son apprentissage va durer un certain nombre d'années jusqu'à ce que l'apprenti ait atteint une certaine maturité. On n'accordera jamais l'état de maîtrise, évidemment, à un adolescent, par exemple. Cela est absolument impossible. On attendra au moins que le musicien soit un jeune homme. Donc si l'apprenti est mis en apprentissage trop tôt, son apprentissage va durer. Mais en règle générale, l'apprentissage dure 4 ans. C'est la moyenne de l'apprentissage ménétrier en France. Au terme de cet apprentissage, quand l'apprenti réside dans une ville qui est pourvue d'une corporation, il doit présenter un examen qui s'appelle le chef-d'œuvre. Alors là, on atteint évidemment une terminologie que, d'une certaine manière, le compagnonnage a conservé aujourd'hui. Hein. Le compagnonnage qui est aussi un mode initiatique, finalement, d'organisation professionnelle. Et donc, on passe ce chef-d'œuvre, qui est un véritable examen, un véritable rituel de passage, finalement, dont les épreuves ne sont jamais consignées à l'avance. L'apprenti va découvrir au moment même du chef-d'œuvre, finalement, en quoi consiste ce rituel initiatique. Si le chef-d'œuvre est obtenu avec succès, ce chef-d'œuvre se déroule devant un certain nombre de maîtres qui l'examinent, eh bien l'apprenti devient maître. Il accède à la maîtrise, à la suite de quoi il pourra jouer publiquement dans la ville, sans aucune contrainte, à condition de s'acquitter annuellement d'un droit de cotisation dans la confrérie. Les maîtres se réunissent tous les ans, donc dans une des chapelles d'une grande église de la ville, et élisent ce qu'on appelle à Toulouse des bailes, ou des chefs de métier, qui vont diriger le métier pendant un an et qui sont rééligibles, on peut les élire plusieurs années de suite. Bon, on peut lire cette histoire corporatiste en France, dans toutes les grandes villes pratiquement, parce que toutes ces grandes villes ont connu, à un moment ou à un autre, des corporations de ménétriers. La plus ancienne que l'on connaisse, à travers les archives, c'est la corporation de Paris, la corporation de Saint-Julien des ménétriers, fondée en 1321. La plus récente, la plus proche de nous, c'est celle de Bayonne, 1691. On a 370 ans entre les deux, c'est absolument considérable. Et entre ces deux dates extrêmes, on a une progression du phénomène corporatiste musical chez les ménétriers, apparemment sans aucune logique géographique, ni sans aucune logique chronologique. Ce corporatisme est un phénomène très important, en règle générale. Il semble provenir d'Europe du Nord et des Flandres, d'Allemagne vraisemblablement, et peut-être encore plus vraisemblablement d'Europe centrale. Il aurait pénétré en France via l'Alsace. Et il est fort probable qu'il a existé en Alsace une corporation des ménétriers antérieure à celle de Paris. Malheureusement, pour l'instant, nous n'en avons aucune trace. En tout cas, dans la musique européenne, la musique des ménétriers est une musique importante. Et nous voyons ici un certain nombre d'images des processions corporatives animées par des ménétriers oboïstes, et ces images nous ramènent en Allemagne au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Et nous voyons plusieurs grandes processions corporatives ouvertes par des groupes de ménétriers oboïstes, et cela nous montre aussi qu'en Allemagne, la musique ménétrière est beaucoup plus fréquemment représentée, dans sa fonction processionnelle en tout cas, que la France ne le fait. Voilà une troisième vignette, une troisième gravure qui représente cette musique corporative en Allemagne. Nous avons également, alors là c'est un peu plus ancien, nous sommes au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, et nous sommes dans les Flandres, plus exactement à Louvain, où un groupe de 4 ménétriers, 3 joueurs de hautbois et 1 joueur de trompette, des ménétriers communaux de Louvain sont représentés ici, ce qui montre bien que l'on a affaire à une réalité européenne, phénomène sur lequel je vais revenir dans quelques instants. En tout cas, au XVIIIe siècle, la plupart des grandes villes françaises possèdent des corporations de ménétriers. À cette époque-là, de ce point de vue-là, on dit qu'elles sont majeures. Voilà une carte que j'avais réalisée il y a maintenant un peu plus de 25 ans, à la lecture justement des écrits de Bernard sur la corporation des ménétriers de Paris. C'est la carte des 40 villes majeures du XVIIIe siècle qui possèdent donc des corporations de ménétriers. En dehors de ces villes, bien entendu, il y a des musiques ménétrières, mais il n'y a pas de corporation. Et là, les ménétriers peuvent s'assembler librement, comme bon leur semble, à condition de faire des contrats d'association, bien entendu. Et alors, on a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que dès lors qu'on veut faire de la musique ensemble et que l'on fabrique, que l'on crée un orchestre, on passe devant le notaire et on fait un contrat d'association. Il y a donc une assez grosse archivistique des contrats d'association ménétrière. Et on s'aperçoit que le droit corporatiste est transposé de façon quasi intégrale dans ces contrats d'association. C'est-à-dire que des ménétriers qui veulent former un groupe en milieu rural vont prévoir des dispositions d'entraide économique, comme le prévoit le droit corporatiste dans les villes, et en même temps vont usurper le titre de maître. Ils vont s'intituler maître violon, maître hautbois, maître ménétrier, alors qu'ils n'ont jamais passé le chef-d'œuvre et qu'ils n'ont jamais accédé officiellement à la maîtrise, comme ont pu le faire leurs homologues urbains. La musique ménétrière devient au XVIe siècle une musique extrêmement hégémonique en Europe, mais en France en particulier, et on appelle ce corps des ménétriers tout simplement la ménestrandise. Pourquoi cette ménestrandise est à ce point hégémonique? Tout d'abord parce qu'elle est organisée d'un point de vue central par un personnage qui s'appelle le roi des ménétriers. Ce roi des ménétriers, il a été nommé à vie par le roi de France. Et en fait, il a un véritable pouvoir, ce roi des ménétriers, contrairement à de nombreux rois professionnels ou des rois de jeunesse que l'on connaissait dans les sociétés médiévales ou d'anciens régimes en Europe et en France. Ces rois de jeunesse ou ces rois de métier avaient uniquement une fonction parodique. Le roi des ménétriers, lui, il est nommé à vie et il n'a pas du tout une fonction parodique. Il réglemente véritablement la musique ménétrière sur tout le royaume. Il peut même percevoir le quart des amendes qui seront levées sur tout le royaume. Donc c'est une place qui est évidemment très convoitée. Il peut s'opposer à l'attribution de la maîtrise à n'importe quel ménétrier du royaume. Il peut lui confisquer ses instruments, il peut casser ses instruments, il peut mettre le ménétrier en quarantaine. C'est un véritable pouvoir de police que le roi des ménétriers exerce sur cette communauté. C'est donc un métier qui devient, à l'échelon du royaume de France, un métier très soudé, très centralisé, très organisé. Et donc, de ce point de vue-là, ça renforce le côté hégémonique et standardisé de la musique ménétrière à ces époques. Ce roi des ménétriers, évidemment, il aurait du mal à gérer lui-même tout seul la musique ménétrière de 40 corporations en province. Et pour cela, il va s'adjoindre les services de lieutenants qui vont le représenter dans les plus grandes provinces. Un peu comme le roi le fait de ses intendants royaux, par exemple. Il y a d'ailleurs un parallèle qui est tout à fait évident entre le roi de France et le roi des ménétriers, entre les intendants royaux et les lieutenants du roi des ménétriers. Les deux royaumes vont évoluer l'un parallèlement à l'autre et d'une certaine manière disparaître l'un en même temps que l'autre à la fin du XVIIIe siècle. J'avais là aussi dressé, il y a un certain nombre d'années maintenant, la carte des principales lieutenances ménétrières avant que les ménétriers toulousains connaissent eux aussi une lieutenance au début du XVIIe siècle et soient donc rattachés de fait au système contraignant du roi des ménétriers. Il y a d'autres raisons qui expliquent cette hégémonie ménétrière dans ces époques anciennes. Les seigneurs qui ont des ménétriers à leur disposition se prêtent les musiciens les uns les autres. C'est une façon évidemment de montrer ces musiciens aux autres seigneurs. Il y a beaucoup de prestige évidemment dans de tels actes de prêt et d'échange. Les ménétriers ont à ce moment-là un rôle politique, protocolaire et officiel qui est absolument déterminant. Mais au-delà, tous les ans, à la période de carême, qui est une période habituellement qui proscrit la musique, la danse et les réjouissances, les ménétriers, pendant le XIVe et le XVe siècle, traversent toute l'Europe et se rendent dans un certain nombre de villes du Nord et d'Allemagne parfois pour assister à des sortes de rassemblements européens de ménétriers au cours desquels sont échangés des instruments, des répertoires, etc. Donc, ce qu'on appelle des écoles, hein, ces espèces de rassemblements européens de ménétriers historiques des XIVe et XVe siècles, vont contribuer à fédérer, à standardiser la musique ménétrière et même également l'orchestration ménétrière, puisque on sait par exemple que certains ménétriers espagnols reviennent de ces rassemblements du nord de l'Europe avec des flûtes qu'ils ont achetées là-bas et qu'ils vont maintenant jouer en Espagne, etc. Donc on voit bien des instruments qui diffusent largement et il y a un rôle évidemment très intéressant dans une certaine uniformisation de la musique orchestrale à cette époque. Et puis un phénomène sur lequel je travaille plus spécifiquement depuis quelques années, qui est le rôle des tziganes également à partir du XVe siècle dans la diffusion des musiques instrumentales, des répertoires probablement aussi, des formes orchestrales. Si on peut voir le même type d'orchestre à la même époque partout, en Allemagne, dans les Flandres, en France, en Espagne, en Italie, vraisemblablement les tziganes ont joué un rôle important aussi dans cette diffusion orchestrale. En tout cas en France, la musique des ménétriers est hégémonique et tout le vocabulaire de la musique, même quand il ne s'agit pas de musique ménétrière, est formé sur le radical ménestre. Ménestre, ça devient un terme générique, radical, pour tout le vocabulaire musical. Par exemple, la musique, au XVIe siècle, on dit tout simplement la ménestrerie, même si il s'agit de musique religieuse ou de musique militaire qui n'a rien à voir avec la musique ménétrière. Mais le terme générique, c'est la ménestrerie. François Villon dira à d'Orphée qu'il est un doux ménétrier, pour dire un doux instrumentiste, un doux musicien. Ménétrier, ça devient un petit peu un concept générique, même si, je le répète, tous ne sont pas ménétriers à ces époques-là. Alors, si la musique ménétrière est aussi hégémonique et aussi importante, c'est que les ménétriers sont présents sur tous les terrains de jeu possibles. On les trouve dans le cadre privé et intime de la fête familiale, dès le baptême, mais essentiellement lors du mariage. Encore au XIXe siècle, des ménétriers français, et même encore au XXe d'ailleurs, hein, des ménétriers français ont dit que le mariage constituait la source principale de leur activité musicale et de leurs revenus, bien plus que la fête, le bal, la danse, par exemple. Il faut savoir que le mariage dans la société rurale française ancienne durait parfois jusqu'à une semaine pleine, et que dans cette semaine, les ménétriers étaient sans arrêt sollicités. Mais ce cadre est également plus largement social, et par exemple, les ménétriers animent les fêtes des confréries professionnelles, les fêtes annuelles, mais quand on sait qu'à Toulouse, il y a à peu près une centaine de confréries professionnelles, eh bien voilà, à peu près une centaine de fêtes annuelles, tout d'un coup, à animer, et donc évidemment, cela procure un surcroît d'activité musicale, qui va expliquer aussi que dans les grandes villes, on va trouver des professionnels, à la différence des milieux ruraux ou semi-ruraux, semi-urbains, dans lesquels on trouve soit des amateurs complets, soit des semi-professionnels. Le cadre également est davantage public, avec des fêtes de quartier, des fêtes patronales, des fêtes de village aussi. Et là, l'iconographie historique, à partir du XVIIe siècle, est assez importante, avec des graveurs comme Leblon, Lepotre, par exemple, qui ont gravé des scènes de danse, la danse villageoise, ici, que l'on voit dans une gravure du XVIIe siècle. Encore une scène de branle villageois, ici, où l'on voit à gauche, juché un petit peu en hauteur, deux oboïstes qui rythment par le jeu de leur instrument cette danse de branle, mais des scènes beaucoup plus rurales qui parfois ont trait d'ailleurs au mariage, comme ici une gravure de Lepotre qui a trait au rituel nuptial en milieu rural. C'est un banquet de noces paysannes. Même chose ici où l'on a des jeux paysans. Ici, par exemple, c'est toujours Lepotre qui a gravé un jeu de quilles animé, on le voit sur la partie droite de cette gravure, par un joueur de hautbois. Les ménétriers interviennent également pour les fêtes calendaires. Qu'appelle-t-on les fêtes calendaires? C'est les fêtes qui reviennent à date fixe dans le calendrier et qui sont rattachées au grand cycle du calendrier annuel. Alors, des grandes fêtes calendaires sont par exemple les fêtes de carnaval, mais il y a aussi tout le cycle de mai. Il y a le cycle des fêtes saisonnières, des récoltes, de la vigne, de Noël, etc. On connaît quelques représentations très rares de musique ménétrière pour des fêtes calendaires. Par exemple, ici au XVIIe siècle, la plantation d'un mai. Les mais, ce sont ces espèces de mâts. Ces mâts qui avaient une fonction tout à fait identitaire et symbolique et autour desquels on dansait. Et donc on voit ce mât qui est en train d'être érigé ici, avec une musique qui est ici jouée par des tambours et des trompettes. mais on voit que derrière, en arrière-plan de la scène, il y a une danse en cercle, une danse en rond. Autre fête calendaire qui est représentée par une vignette de cette époque-là, nous sommes dans une quête rituelle, une quête des œufs. C'est une gravure de la bibliothèque, du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France, et c'est une des rares gravures qui montre une quête rituelle des œufs, qui est un rituel que l'on fait pendant la période pascale, et c'est extrêmement intéressant pour l'historien, bien entendu, de trouver des documents aussi anciens qui reflètent l'activité de ces musiciens dans des fêtes calendaires. Si la musique ménétrière est aussi importante à ces époques-là, c'est qu'elle joue un rôle officiel, public et politique, à la cour du roi. Et là, il y a aussi un certain nombre de documents iconographiques qui nous montrent les ménétriers dans des fêtes dynastiques. Par exemple, ici, nous sommes au baptême de Monseigneur le Dauphin et de Mesdames ses sœurs, nous dit la légende de cette gravure, à Fontainebleau le 14 septembre 1606. Et un détail de cette gravure nous montre ici le dauphin, et juste en arrière-plan, à droite, une série de ménétriers oboïstes qui jouent des grands hautbois, des cornets, etc. C'est-à-dire des instruments puissants qui viennent sonner la puissance, évidemment, du pouvoir royal. Autre image des fêtes dynastiques, c'est le couronnement. Et ici, par exemple, nous avons le couronnement de Marie de Médicis, qui nous montre également une estrade avec un certain nombre de ménétriers jouant là aussi des sacs-boutes, l'ancêtre du trombone si l'on veut, mais aussi des hautbois, des cornets, etc., autant d'instruments hauts pour jouer là aussi un événement dynastique haut par son symbole politique. Alors les ménétriers jouent également chez les seigneurs et en milieu urbain pour des fêtes consulaires qui sont extrêmement nombreuses, mais, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, qui ont donné lieu à une iconographie finalement assez limitée. En voici quatre représentations. La seule représentation toulousaine dont je parlais tout à l'heure, grande procession urbaine, publique, la procession des corps saints, qui a été représentée en 1701, et au centre de laquelle on voit les ménétriers de la couble des Capitouls, ce qui n'est pas très visible sur ce document, mais ce qui est plus visible ici, dans un document très très agrandi, puisque ce tableau finalement a des dimensions très petites. Et là on voit des musiciens jouant des grands hautbois, en tout cas des hautbois de plusieurs dimensions, et à eux se sont joints deux joueurs de trompette, puisque l'occasion est très importante, et à cette occasion-là, les trompettes parfois se joignaient aux ménétriers. Nous avons une vignette qui date toujours une représentation qui date toujours du XVIIIe siècle. Nous sommes en 1729 à Lille, pour des réjouissances lilloises, et là, ce sont des réjouissances d'ailleurs organisées à l'occasion de la naissance du dauphin, donc des fêtes dynastiques observées dans toutes les villes du royaume. Et nous voyons ici un groupe de quatre ménétriers, trois hautboïstes et un joueur de basson, introduire une procession consulaire, puisque juste derrière, évidemment, suivent les consuls de la ville de Lille. Même chose ici, à Perpignan, dans une gravure qui a été réalisée juste avant la Révolution. Nous sommes en 1787, et ici nous voyons les consuls sortir de l'hôtel de ville de Perpignan, précédés par la musique consulaire, officielle, dans laquelle nous voyons des joueurs de trompette, mais surtout, quelque chose qui est très intéressant pour les ethnomusicologues, ce petit ensemble constitué par une cornemuse, des hautbois, la petite flûte et le petit tambour, que l'on appelle la cobla de tres quartans, c'est-à-dire en fait la coble, l'ensemble de trois musiciens jouant à eux trois, quatre instrumentistes, qui étaient l'ancêtre des grandes cobles catalanes actuelles. Ces ménétriers vont également intervenir pour toutes les réjouissances publiques officielles, et d'une façon générale vont être les animateurs de la danse dans tous ces cadres. Nous avons ici trois représentations de la danse. La danse noble, ici, nous sommes en milieu aristocrate, et nous voyons en arrière-plan une bande de violons, constituée de violons et d'une basse de violons. Mais en dehors de ce cadre noble et aristocrate, les ménétriers interviennent en milieu rural pour des contextes évidemment beaucoup plus populaires. Et ici, bien là aussi, le graveur Leblon, qui a beaucoup gravé des scènes de la vie rurale au XVIIe siècle, nous montre un joueur de cornemuse faire danser de façon tout à fait spontanée, presque un couple devant une auberge. Même représentation ici où cette danse paysanne se fait au son du violon. Ici, c'est le graveur Le Potre. C'est également une gravure du XVIIe siècle. Alors, tout cela, donc, constitue une ménestrandise qui est extrêmement hétéroclite et en même temps hégémonique, et dans laquelle on constate et on connaît des musiciens qui ont des statuts sociaux extrêmement différents. À la fin du XVIe siècle, un inventaire des métiers de l'Ancien Régime a été opéré, enfin deux inventaires ont été opérés, en 1581 et 1597, qui ont d'ailleurs donné lieu à la constitution des premiers armoriaux. Et on a classé tous les métiers en cinq catégories. Or, c'est très intéressant l'intitulé des catégories. À la base de ces métiers, il y a les petits, puis ensuite, entre les petits et les médiocres, puis les médiocres, puis entre les médiocres et les meilleurs, et les meilleurs. Mais les ménétriers se situent exactement au milieu de cet éventail professionnel. Ils s'intègrent dans la catégorie des métiers médiocres. Ce qui, finalement, n'est pas si mal que ça, puisque un siècle ou un siècle et demi après, globalement, ces musiciens seront beaucoup plus dans la catégorie des petits. Alors, si les ménétriers sont considérés comme médiocres à la fin du XVIe siècle, c'est qu'il y a parmi eux de grands musiciens urbains, de grandes corporations urbaines, qui jouent au service des pouvoirs, qui sont des ménétriers d'élite, et dont ce caractère élitaire se lit dans le niveau d'alphabétisation, et en particulier dans les signatures que l'on retrouve dans les documents d'archives. Dans ce document-là, nous avons cinq signatures. Les deux signatures supérieures sont des signatures de musiciens illettrés, dont on mesure évidemment sans doute le côté très populaire de leur extraction sociale. Le premier en haut a signé en dessinant un archer. Dessous, le ménétrier a dessiné une trompette. Mais par contre, les trois signatures qui suivent sont celles des trois musiciens qui ont dirigé la couble des hautbois des Capitouls au début du XVIIe siècle, notamment Gaillard Taillasson, cette troisième signature en partant du haut, très belle signature avec vraiment une calligraphie dans laquelle on lit vraiment l'aisance pour l'écriture et la signature, et ce ménétrier, Guillaume Taillasson, avait d'ailleurs été nommé roi des violons de France à la fin de sa carrière. On voit aussi la signature d'un grand ménétrier nommé Barascou, qui a également dirigé la couble des hautbois des Capitouls de Toulouse, ainsi que Maran, qui était surnommé Poncé. Donc on voit bien avec ces signatures qu'on a affaire, évidemment, à des niveaux différents des niveaux sociaux, des niveaux aussi d'alphabétisation différents dans cette ménestrandise, et que cette ménestrandise, finalement, n'est pas un corps homogène, loin de là. Alors, ces ménétriers jouent toujours de façon collective. Ils constituent des bandes dont le nombre varie dans un effectif qui va de 5 à 8, mais dont le chiffre 6 est un chiffre assez fréquent, finalement. Évidemment, un chiffre très symbolique. Parfois, pour certains grands événements officiels, prestigieux, ponctuels, ces effectifs vont croître, mais il ne s'agit que, évidemment, d'un contexte, d'une occasion en particulier. En 1660, le roi et Marie-Thérèse font leur entrée à Paris. 20 joueurs de violon les accueillent. Mais à Lyon, au XVIIe siècle, à la moitié du XVIIe siècle, pour une entrée, là aussi, d'un grand personnage de l'État, ce sont 70 joueurs de violon et de basse de violon qui accueillent ces grands personnages. Ces bandes ménétrières ont une durée variable. Parfois, c'est la durée d'une fête, d'un jour. Le jour de l'an, par exemple, ou Mardi Gras. Mais en règle générale, c'est quand même quelques années, et certains contrats d'association assez optimistes prévoyaient que ces ménétriers allaient s'associer à vie, ce qui évidemment n'a jamais été le cas. Mais en même temps, ce qui est intéressant, puisqu'il suffit qu'un musicien parte pour qu'un procès ait lieu et constitue un nouveau document d'archives, etc. Donc finalement, la mésentente entre les musiciens est une très bonne chose pour l'historien a posteriori. Les instruments des ménétriers sont essentiellement le violon ou le hautbois, qu'ils jouent alternativement, successivement, dans un jeu instrumental polyvalent. Tous les ménétriers en France, mais aussi en Europe occidentale, à ma connaissance, sont des instrumentistes polyvalents, capables de jouer aussi bien du violon que du hautbois. On dit, de cette façon-là, enfin c'est eux-mêmes qui s'intitulent comme ça, je vais revenir tout à l'heure, qu'ils sont joueurs d'instruments tant haut que bas. cette dichotomie du haut et du bas au Moyen-Âge distingue les instruments de fort volume sonore, le haut, de ceux qui ont un volume sonore moindre, le bas. Le haut ici, bien entendu, c'est le hautbois. Le bas, c'est le violon. Encore qu'on le verra, le violon, justement, c'était pas très bas. Et pendant tout le XVIe siècle, c'est un instrument qui a été considéré comme très criard, très perçant, très bruyant, finalement, et qui gênait, finalement. Ces bandes collectives ménétrières fonctionnent toujours de la façon suivante. Elles sont constituées autour d'un seul instrument, le violon ou le hautbois, par exemple, mais avec des registres différents, du plus petit violon au plus grand violon. Ici, on voit, par exemple, à travers cette image, qui nous ramène à Aix-en-Provence en 1740, une bande de ménétriers violonistes jouaient des violons de tailles différentes, et puis ce gros violon jouait de façon horizontale, un peu comme si l'on avait aujourd'hui un quatuor à cordes qui jouerait de façon itinérante dans un contexte processionnel. Alors on connaît cela évidemment pour les violons, mais on connaît cela pour les hautbois. Ici nous sommes à l'occasion du sacre de Louis XV, le banquet qui a suivi le sacre de Louis XV, et on voit les ménétriers hautboïstes du roi, qui sont à droite sur cette image, sur cette vignette, mais à gauche il y a des joueurs de basson qui vont faire les registres graves, et donc qui vont donner à ces orchestres ménétriers une allure et un fonctionnement et une organisation véritablement polyphonique. Les ménétriers sont présents à la cour du roi, cette image le montre bien, et la cour du roi est structurée par trois grands corps. Il y a la chapelle pour la musique religieuse, la chambre pour le concert et le divertissement, et l'écurie pour les musiques d'apparat. Alors c'est un peu sommaire peut-être comme présentation, mais en gros, la fonction de ces trois corps peut être résumée de cette façon-là. Or, à la chambre, on connaît des ménétriers. Ce sont les 24 violons du roi, les 24 violons du roi que l'on voit ici, dans ce bal au Louvre, au début du XVIIe siècle déjà, et on les voit tout à fait sur la gauche de la vignette, mais on les voit beaucoup mieux sur ce détail, où l'on voit là aussi des violons qui ont des tailles totalement différentes, avec des violons relativement petits, puis des violons intermédiaires, et ces grands violons qui sont joués de façon horizontale, mais qui sont tenus un peu comme des guitares, si l'on veut. Cette bande de violons s'intitule les 24 violons du roi, parce que très rapidement on va arriver à cet effectif. Il y a à l'écurie, donc le corps de la musique d'apparat du roi, également 12 hautbois, les 12 grands hautbois, que l'on a vu dans l'image précédente du sacre de Louis XV, et que l'on revoit ici dans une autre image de ce sacre. Au moment où le roi se fait sacrer, bien à ce moment-là, les musiciens ne jouent pas, ils sont en attente, et on les voit dans cette gravure-là, qui est une gravure extrêmement bien représentée. On a l'impression presque que les musiciens ne posent pas. Et puis, si on agrandit encore cette image, ce qu'on ne fera pas ici, mais on verra des détails organologiques sur les hautbois qui sont très fiables, la forme des hanches, etc. Donc, c'est une gravure qui a beaucoup d'intérêt documentaire. Donc, les ménétriers sont présents à la cour du roi, mais il demeure quand même un certain flou sur, parfois, le statut des musiciens, parce qu'on s'aperçoit que les musiciens, parfois, passent d'un corps à l'autre. On peut retrouver, parfois, des ménétriers, pour certains contextes, se mélangeant à des musiciens de la chapelle, dès lors qu'il faudra jouer, par exemple, pour un requiem, pour une messe royale, etc. En tout cas, à cette époque, il y a une proximité du savant et du populaire musical, je vais y revenir, qui caractérise vraiment la musique baroque. Alors cette musique connaît pendant un certain nombre de décennies, voire même de siècles, une ascension continuelle. Et puis à partir de la moitié du XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle, elle connaît une stagnation avant de connaître un déclin brutal. Les villes vont perdre au XVIIIe siècle le pouvoir qu'elles détenaient et leur autonomie, et donc du coup, n'ayant plus besoin d'une représentation musicale politique, elles vont licencier leur personnel ménétrier communal. C'est par exemple le cas de Toulouse, dans les années 1770-1780. Le roi lui-même, d'ailleurs, supprime les ménétriers présents à la cour, puisque en 1761, la bande des 24 violons est dissoute. Et ce sont ces signes du déclin qui vont m'intéresser tout particulièrement. Je vais revenir précisément sur ce mécanisme. Un autre processus qui a contribué au déclin des musiques ménétrières, c'est l'académisme musical, qui s'instaure déjà au XVIe et qui triomphe au XVIIe siècle, et qui va ériger face à l'oralité des ménétriers le dogme de l'écriture et de l'écriture musicale. En même temps qu'il va cantonner la musique ménétrière dans les musiques du bruit, alors que la musique savante, bien entendu, développe des référents esthétiques qui sont absolument différents, voire antinomiques. Cela va se lire dans une certaine iconographie à caractère dépréciatif, que l'on voit par exemple ici dans une gravure de Hogarth, qui s'appelle tout simplement le Charivari. Hogarth qui est un graveur de la première moitié du XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un peuple, plusieurs acteurs populaires, sonnant des instruments qui sont supposés ici être bruyants, ou en tout cas dérangeants, hautbois, tambours, etc., mais aussi d'autres objets, alors on souffle dans une trompe et autres, et tout cela vient déranger un compositeur, qui est ici un violoniste d'ailleurs, mais on voit qu'il a un pupitre, des partitions, et que cette musique populaire l'empêche de travailler, le déconcentre, et pour cela, il se bouche les oreilles. En plus, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce compositeur est dans la partie supérieure de l'image, ce qui est toujours un code positif de l'iconographie, et le peuple est en bas. Donc là, on est vraiment dans la représentation spatiale, sociale, tout à fait classique. Cette image, qui est donc due à Hogarth, qui était anglais, va être reprise un petit peu plus tard, dans une gravure du début du XIXe siècle, qui s'appelle « Le morceau d'ensemble ou le désespoir du compositeur », dédié à tous les musiciens. Et là, on va à nouveau stigmatiser un peuple, joint de façon collective, mais dans tous ses états, y compris le musicien militaire. Ça peut être aussi l'artisan qui fait du bruit, qui tape sur une enclume, etc. Bon. Ou les chasseurs qui soufflent dans leur corps. Voir en arrière-plan de cette image, une cloche sonner à toute volée. C'est tout cet environnement urbain, sonore, bruyant, qui vient déranger le compositeur, qui d'ailleurs n'est plus un violoniste, mais un joueur à clavier, et qui se bouche les oreilles exactement de la même façon, toujours situé dans la partie haute de l'image. Cet académisme musical va instituer progressivement la notion d'artiste-musicien au détriment du ménétrier qui est un artisan, puisque les ménétriers organisés en corporation le sont sur le modèle des corporations artisanales. Et donc il y a l'artiste versus l'artisan, ça c'est très intéressant. Je pense que la musicologie devrait se pencher peut-être sur ce clivage de statut et de considération. En tout cas, il y a un immense procès que l'on connaît, qui va de 1661 à 1673, ce qui est quand même assez exceptionnel dans l'histoire européenne musicale, et qui va opposer pendant plus de 110 ans les corporations ménétrières aux compositeurs et musiciens du roi, en particulier clavecinistes et organistes. Ces procès seront perdus par les ménétriers, bien sûr. Arrive la période révolutionnaire qui va sonner le coup de grâce des musiques ménétrières professionnelles en milieu urbain. Pourquoi ? Pas parce que les révolutionnaires en ont spécifiquement après les ménétriers, mais parce que les ménétriers ont été les vecteurs d'une identité politique d'ancien régime, celle des rois, des nobles, de l'aristocratie, que l'on veut gommer, bien entendu, la révolution veut gommer ça, et à la place des musiques ménétrières, la révolution va ériger une nouvelle forme d'identité musicale, qui est celle de la musique régimentaire de la garde nationale. Et donc les ménétriers vont perdre leur activité urbaine professionnelle, ils vont rester des musiciens ruraux, dispersés, éparpillés géographiquement, et qui vont perdre le caractère collectif de leur pratique pour se retrancher dans une pratique essentiellement individuelle et solitaire. Cette marginalisation des musiques ménétrières, elle se lie aussi dans la production d'une iconographie qui est dévalorisante, stigmatisante, marginalisante, dans laquelle les ménétriers maintenant sont présentés systématiquement comme des ivrognes, des mendiants, des aveugles, des gueux, ou des personnages estropiés, souvent boiteux, ce qui d'ailleurs les place métaphoriquement dans le champ de la mort. Alors, cette histoire ménétrière, j'en ai proposé une première conclusion dans un ouvrage paru en 1994 aux éditions Klingsic, et qui retrace cette histoire de la musique ménétrière, non seulement à Toulouse, qui a été la ville dans laquelle j'ai commencé ces investigations, mais d'une façon plus générale en France, voire même en Europe occidentale. Dans quel état d'esprit cette recherche a-t-elle été menée? Toute proportion gardée, je dirais que mes fonctions, mon activité de musicien dit traditionnel revivaliste, faisait peut-être de moi, d'une certaine manière, un néo-ménétrier. En tout cas, j'ai joué dans certains contextes, souvent dans des processions, par exemple, pour des mariages, pour des banquets, pour des réceptions, etc., qui ont été des contextes historiques de ces ménétriers. Et le fait d'avoir partagé, même avec plusieurs siècles de décalage, et certainement pas du tout de la même façon, d'avoir partagé des contextes relativement proches, m'a permis parfois de redonner un sens et des directions à certains moments où ma recherche se situait parfois temporairement dans des impasses. Mais cette recherche, je dirais que, évidemment, je l'ai menée d'un point de vue historique, mais toujours guidée par des préoccupations d'ethnomusicologie. Par ailleurs, je suis ethnomusicologue, je faisais des enquêtes de terrain, et en dehors de faire de l'investigation historique, j'allais aussi faire des collectes, notamment auprès de violoneux en Gascogne. Alors, moi, j'ai travaillé simplement sur un objet qui est un objet historique, mais qui est celui sur lequel l'ethnomusicologie se pencherait si nous n'étions pas dans une dimension diachronique. En effet, j'ai travaillé sur un groupe de musiciens qui est en charge de toute la ritualisation sociale, communautaire et politique de sa société. J'ai examiné toutes les facettes de la pratique de ces musiciens. J'ai brossé leur sociologie, je me suis intéressé à leur origine sociale, leur mode d'apprentissage, la façon dont ils se retransmettent ces musiques, leur rapport à l'oralité, leur organisation professionnelle, leur pratique musicale, leur rapport à l'instrument, la fonction des circonstances de leur jeu, le rôle emblématique ou non qui leur est confié. J'ai étudié les cadres sociaux, les cadres institutionnels de ces pratiques musicales et l'évolution de ces cadres au fil des siècles. De la sorte, je me suis interrogé sur la place de ces musiciens dans leur société, sur leur esthétique musicale, qui va devenir de plus en plus périphérique vis-à-vis d'un centre très normatif qui est les académies royales et la cour de Versailles. J'ai travaillé sur des catégories de musiciens et sur des faits musicaux qui sont absolument identiques à ceux qui intéressent l'ethnomusicologie aujourd'hui, sauf que moi je l'ai fait dans une optique historique. Alors, l'objet central de cette recherche était de réparer une carence de la musicologie historique, que j'avais constatée bien sûr, sans trop de difficultés, et de contribuer à réécrire une histoire sociale de la musique qui s'appuierait sur le producteur et l'interprète, également sur le fait musical, et de s'interroger donc sur les liens de la musique et du pouvoir. Or, ces dimensions, jusque-là, n'étaient que peu examinées par la musicologie historique. Je reprendrai une observation d'André Scheffner. André Scheffner m'a beaucoup guidé au début de mon investigation musicale et historique, parce que c'est quelqu'un qui a su redonner par l'ampleur et la profondeur de ses réflexions toujours du sens à ma recherche. Et voilà le constat tout simple que faisait Scheffner. Toute l'histoire de la musique, telle qu'elle est généralement présentée et résumée, se borne à peu près à une succession de noms de compositeurs, comme si l'on s'était passé d'interprètes, de concerts, de toute espèce de manifestation musicale. Bien entendu, c'est pour essayer de rattraper ce constat, cette carence, que j'ai donc mené jusqu'à son terme, je crois, cette histoire sociale de la musique. Quels sont les apports d'une telle recherche et quelles sont ses conclusions? Tout d'abord, j'ai insisté sur les causes politiques de l'apparition de cette musique ménétrière. Et de la sorte, j'ai essayé de définir les principes d'une emblématique politique sonore. Comment les pouvoirs au Moyen-Âge ont eu besoin de s'annoncer d'un point de vue sonore et musical. D'une certaine manière, cela introduit la notion de blason sonore, qui est un terme qui convient bien, je pense, puisque les philologues, les linguistes, pensent que l'une des étymologies du mot blason proviendrait de l'ancien allemand blasen, qui veut dire souffler. Or, véritablement, ces pouvoirs, cette héraldique médiévale d'ancien régime, s'annonce par des instruments à vent, qui sont des instruments puissants et qui contribuent justement à donner au blason tout son éclat. Mais à travers cette opposition entre ménétrier et jongleur, je me suis intéressé à un certain nombre de couples, de notions antinomiques que j'ai essayé d'interroger ou parfois justement de décliver peut-être. Par exemple, l'opposition entre l'itinérance et la sédentarité. L'itinérance des jongleurs, la sédentarité des ménétriers. Ou bien l'organisation des jongleurs contre contre l'inorganisation des jongleurs. Le jeu spécialisé des ménétriers, instrumental, contre la pratique polyvalente des jongleurs. Le jeu collectif des ménétriers contre la pratique solitaire des jongleurs. Le fait que les ménétriers sont des hommes, contre le fait que les jongleurs sont autant des hommes que des femmes. Je me suis intéressé également à un certain nombre de facteurs diffusionnistes anciens qui ont permis de mettre en évidence un niveau européen des musiques ménétrières et ce qui vient relativiser du même coup cet aspect que l'on a longtemps postulé, y compris encore au XXe siècle, d'un horizon limité, l'aspect autarcique de la ruralité française. Cette recherche posait aussi les questions des rapports complexes entre l'oral et l'écrit. Elle posait la question du rapport du maître à disciple. On connaît ce rapport-là dans les musiques françaises. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller dans d'autres civilisations musicales. Elle posait la question de la sociabilité confrérique à travers les corporations professionnelles et aussi la notion de territorialisation musicale puisque les corporations gèrent les ménétriers d'une ville et le roi des ménétriers gérait les ménétriers de tout le royaume. Elle s'est intéressée, cette histoire, aux questions de l'itinérance, du nomadisme, du voyage, des rapports de la musique et de la danse et du statut social et culturel du musicien à travers le regard qu'on porte sur lui et à travers la réglementation dont il est victime. Mais elle a surtout consisté à poser l'étude des rapports entre le savant et le populaire. Cette étude historique du métier de ménétrier ne doit pas nous cantonner exclusivement dans une sphère du populaire. La production musicale des ménétriers est socialement et politiquement transversale. Ces musiciens jouent aussi bien pour le peuple que pour les élites, les pouvoirs. Donc cette musique, elle doit être étudiée dans toute sa complexité. Elle ne doit pas se laisser enfermer dans une catégorie du populaire, du marginal, etc., qui serait coupée du savant. Ici, le partage entre savant et populaire ne va pas de soi. Et même à l'époque baroque, pour ce qui est de la musique, on le sait très bien, il y a une très grande porosité entre les niveaux du populaire et du savant durant toute l'époque baroque, à l'échelon des musiciens, des procédés compositionnels, etc., des thèmes. Alors, malgré tout, il est indéniable qu'il y a des classes populaires qui partagent un certain nombre de pratiques, d'attitudes et de consommations culturelles. Par ailleurs, l'académisme musical, qui apparaît donc au XVIe siècle, qui se structure, se formalise, qui est véritablement triomphant au XVIIe siècle, va créer un populaire fabriqué par les élites. Un objet indigne des classes dirigeantes, vont dire les historiens et les anthropologues Michel de Certeau, Dominique Julia ou Jacques Revel. Catégorie assignée et disqualifiée. Et Roger Chartier a même écrit, ce qui est tout à fait juste, que le populaire, c'est une catégorie du savant. C'est pour cela qu'il faut éviter des anachronismes et présenter les ménétriers comme des musiciens populaires. Ça, c'est une conception moderne. Cette recherche sur les ménétriers se situe au carrefour de plusieurs champs disciplinaires. Alors, l'histoire sociale de la musique, c'est assez évident. Et dans une certaine mesure, et je dirais en toute modestie, j'ai essayé de prolonger sur ce terrain des ménétriers des travaux antérieurs et pionniers qui m'ont guidé, qui ont été ceux de François Lezur, mais avant lui de Norbert Dufourc, et puis plus récemment de Marcel Benoît, Yolande de Brossard, Madeleine Jurgens, Catherine Massip, etc., qui ont essayé de brosser l'histoire sociale de la musique, et d'une façon plus ou moins importante, qui ont parlé des ménétriers. François Lezur, ce grand musicologue et sociologue de la musique, avait rédigé sa thèse de l'École des Chartes sur les ménétriers parisiens lui aussi. Cette histoire sociale de la musique, comme une bonne partie de l'histoire sociale de l'art en général, s'intéresse à ce que le sociologue Antoine Aignon appelle la sociologie de la médiation. C'est-à-dire en fait tout un ensemble de procédés ou d'acteurs intermédiaires entre la production musicale et la réception musicale qui font que la musique tout simplement peut exister. Alors au-delà des commanditaires, des mécènes que sont l'État, les marchands, etc., bien entendu le rôle des ateliers, des écrits, des traités, des académies, mais des cadres de la musique, du concert, de l'organisateur de concert, etc., etc. Cette histoire sociale de l'art s'est intéressée à la professionnalisation croissante des disciplines artistiques, et en ce qui me concerne avec l'étude du corporatisme musical, c'est évidemment ce que j'ai fait. Elle s'est intéressée, comme le remarque Antoine Aignon, à l'évolution des médiateurs de l'art. Or, l'un des médiateurs de la musique, c'est par exemple l'instrument de musique, et je me suis intéressé à leur évolution, à l'évolution de leur statut. Et puis elle s'intéresse à l'évolution des fonctions de l'art, et ici de la musique, et de la consommation musicale. Encore que de mon point de vue, les fonctions communautaires et rituelles ont été peu abordées dans l'histoire musicale, peut-être parce que, comme le constate Anne-Marie Green, sociologue de la musique, tout ce qui relève des musiques de fonction, comme elle dit, musique rituelle, etc., a été abandonné à l'ethnomusicologie, mais en fin de compte, comme je l'ai dit, qui s'en est pas préoccupé parce qu'on a affaire à l'histoire. Les musiques de délectation, comme dit Anne-Marie Green, les musiques du divertissement, du concert, étant bien, par contre, celles de la musicologie et plus récemment de la sociologie de la musique. Au-delà de l'histoire sociale de la musique, une telle recherche concerne et s'inscrit dans une anthropologie musicale historique d'une façon plus générale, plus importante. Puisque, comme je l'ai dit, j'ai travaillé sur un objet qui relève totalement de l'ethnomusicologie, si cet objet avait été synchronique. Mais ma recherche concerne une temporalité ancienne. Et donc, malheureusement, les ethnomusicologues ne s'y intéressent pas, et je dois dire, au début en tout cas de ma recherche, n'y ont pas manifesté beaucoup d'intérêt pour ce travail-là. Tout simplement parce que peut-être l'ethnomusicologie se situe encore globalement dans la perspective synchronique du terrain. Alors peut-être ce n'est pas le lieu de discuter ici cette passionnante question d'épistémologie, mais dans quelle mesure la mémoire et la tradition sur laquelle travaillent les ethnologues et les ethnomusicologues se situent dans le présent. Est-ce que ce ne sont pas des dimensions aussi du passé qui interrogent le passé, et est-ce que la mémoire et la tradition ne s'inscrivent pas aussi d'une certaine manière dans le champ historique ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai évolué, au milieu des années 90 à peu près, d'une histoire sociale de la musique dont j'ai rendu compte dans cet ouvrage, à une recherche beaucoup plus largement anthropologique ? C'est principalement le déclin de cette musique ménétrière constatée au XVIIe siècle et qui va s'accélérer au XVIIIe siècle. Et là, je suis revenu sur une hypothèse que j'ai publiée dans mon ouvrage sur les ménétriers français sous l'Ancien Régime, qui est donc l'hypothèse politique, historique et sociologique du déclin de cette musique ménétrière. Je ne remets pas en cause cette hypothèse, je considère qu'elle est toujours valable, d'autant que, je le rappelle, la musique des ménétriers est apparue pour des raisons essentiellement politiques, au XIIe et XIIIe siècle. Néanmoins, en tant que telle, elle me semble insuffisante pour apporter une explication rationnelle et objective à ce déclin. Comment ne pas prendre en compte, en effet, le processus d'émergence et de formalisation d'une rupture esthétique et culturelle définitive à partir du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment des académismes, entre deux catégories donc du musical, le savant des élites contre le populaire des ménétriers. Est-ce qu'il ne fallait pas rechercher dans cet affrontement esthétique et culturel la cause la plus évidente de la marginalisation et du déclin de la musique ménétrière ? Naturellement, oui, bien sûr. Et alors, j'ai commencé à porter une considération tout à fait différente à une formulation que j'avais croisée pendant 15 ans, mais jusque-là qui ne m'avait pas véritablement interpellé, ou assez peu, c'est la façon dont les ménétriers se sont appelés historiquement. Depuis le XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, ils se sont eux-mêmes désignés comme joueurs d'instruments tant haut que bas. Et donc, ici, nous avons affaire à deux catégories, le haut et le bas, qui désignent le volume sonore, bien entendu, le haut, le fort volume sonore, le bas, le faible volume sonore. Et ces catégories apparaissent au XIe siècle, pour caractériser d'abord la voix, l'émission vocale, avant de s'appliquer au XIIIe siècle à l'univers instrumental. Et après avoir très longtemps caractérisé deux niveaux différents de gestuelle et de corporéité, et cela depuis le début de l'ère chrétienne à peu près, et donc sur des bases éminemment morales et religieuses. Alors, ce qui intéresse l'anthropologue historien, l'anthropologue de la musique, c'est que cette conception du haut et du bas, elles émanent de leurs concepteurs et de leurs utilisateurs médiévaux. C'est pas moi, chercheur du XXe siècle, qui invente cette catégorie. Non, ce sont les musiciens, les praticiens, les théoriciens qui la créent eux-mêmes et qui la mettent en exergue. C'est donc une conceptualisation endogène. En ethnologie, aujourd'hui, on dirait une conceptualisation émique. Le problème, évidemment, c'est qu'à 7 siècles d'écart, elle est difficilement opérante et on a du mal à voir exactement ce qui correspondait aux instruments bas et aux instruments hauts. Je vais y revenir maintenant. Mais en tout cas, ce clivage-là me semblait d'origine religieuse et c'est sur cette probable origine religieuse que j'ai décidé de travailler. Alors que l'on aurait pu introduire des niveaux d'opposition sonore prenant des niveaux absolument différents de métaphorisation, comme d'autres sociétés l'ont fait. Par exemple, la différenciation sexuelle, instrument mâle, instrument femelle. Ou alors la taille du son, les grands instruments, les petits, les forts, les faibles. On aurait pu prendre aussi la couleur, la lumière, etc. On décidait de recourir aux adjectifs haut et bas, qui sont les termes dont la sémantique symbolique est la plus chargée de l'histoire médiévale, et dont les connotations sont aussi bien sociales que morales et religieuses. Et alors, je fus convaincu que la clé de cette histoire esthétique ménétrière en particulier, et ici dualiste, résidait dans la sémiologie, le décryptage sémiologique de ces deux notions complexes du haut et du bas, et dans la mise en perspective de ce décryptage sémiologique. Le point de départ de cette nouvelle problématique, puisqu'il s'agissait d'instruments de musique, eh bien, c'était de voir quels étaient les instruments qui rentraient dans l'une et l'autre de ces classes du haut et du bas. Et pour cela, il faut s'immerger totalement dans la littérature et dans l'archivistique médiévale, parce que malheureusement, au XIIIe siècle, quand on commence à voir des instruments dits hauts ou des instruments dits bas, à cette époque-là, aucun document ne va nous proposer une classification globale de l'instrumentarium sur le critère du haut ou du bas. Effectivement, on n'est pas ici dans un partage rationnel, objectif, scientifique, théorique. On est dans un partage symbolique. Et ce partage symbolique n'a jamais fait l'objet d'une théorisation a priori. Donc il n'y a pas de classification historique sur le haut et sur le bas. Alors il faut lire tous ces documents médiévaux, il faut les examiner minutieusement pour voir apparaître deux classes d'instruments que je vais essayer de schématiser par ce tableau. Dans les bases d'instruments, nous avons tous les cordophones, tous les instruments à cordes de l'époque médiévale. Ils sont tous dans les bas. Puis, deux types d'instruments avant, dont le volume sonore, semble-t-il, était effectivement assez restreint, ce qu'on appelle les flûtes douces, flûte à bec ou flûte traversière, ou le petit orgue portatif ou positif. Enfin, je retiendrai ici que tous les instruments à cordes sont dans les bas. Et puis dans les hauts, il y a tous les autres instruments avant. Alors là, par contre, ils sont nombreux. Toutes les flûtes dites hautes, alors les flageolets, les fifres, etc. Mais aussi les hautbois, les cornemuses, les cors, les trompes, les cornets. Et puis quelques membranophones, de type timbale, par exemple, quelques idiophones, comme les cloches. Bien, une fois qu'on a réparti donc les instruments dans ces deux classes, à la lecture des textes médiévaux, je le rappelle bien sûr, j'ai simplement fait que compulser toutes les occurrences textuelles de la harpe basse, de la trompette haute, etc., et de fabriquer deux colonnes. Pour travailler d'une façon structurale et anthropologique sur ce critère du haut et du bas, le seul critère du volume sonore ne me suffit pas. Il est important, mais il ne me suffit pas. Il faut que je dégage des critères que je vais intituler des critères secondaires pour essayer de proposer une anthropologie structurale qui soit plus complète et donc, je pense, plus pertinente. Et donc, je vais mettre en exergue, à partir de ces deux catégories organologiques, un certain nombre de critères secondaires, en prenant pour observation et pour appui le fait que tous les cordophones sont dans les bas et que l'immense majorité des aérophones sont dans les hauts. Alors, quels sont ces critères secondaires ? Tout d'abord, évidemment, le volume. Bon, ben ça, c'est ce qui a déterminé le bas et le haut. Alors, tous les bas ont en principe une certaine douceur sonore qui les caractérise, alors que tous les hauts ont une certaine puissance sonore qui les définit. Mais au-delà, le clivage de la corde contre le vent. Le fait que les instruments à cordes, pour la plupart d'entre eux, sont intrinsèquement harmoniques. Pas tous, bien sûr, la vielle à archer, le violon, n'est pas un instrument harmonique, ou assez peu. Mais si je prends la harpe, la lyre, la sitar, les instruments à clavier, là on a affaire véritablement à un instrumentarium de l'harmonie. Par contre, dans la catégorie en face, les instruments à vent, puissants, eux sont strictement monodiques. Si je veux faire de la polyphonie, il faut jouer à plusieurs. Alors le seul instrument qui soit polyphonique, c'est la cornemuse, mais c'est une polyphonie très rudimentaire, c'est une mélodie avec un bourdon. Ce n'est pas vraiment de la musique harmonique. Et puis, le dernier critère, peut-être, qui est important aussi, c'est le critère de la résonance. Puisque tous les instruments à cordes possèdent une caisse de résonance, ça fait partie de leur organologie. Et par contre, les instruments à vent, eux, sont absolument dépourvus, bien entendu, de caisse de résonance. Alors, à partir de là, je vais, maintenant que j'ai dressé un certain nombre de critères secondaires du bas et du haut, je vais travailler de façon structurale et anthropologique sur chacun de ces critères pour voir, pour essayer d'examiner la spécification religieuse ou profane de ces divers caractères. Et je vais voir comment ces spécifications profanes ou religieuses se répartissent, s'organisent dans ces deux colonnes. Parce que s'il s'avérait, alors évidemment c'est une hypothèse que je formule, pour laquelle j'ai quand même une certaine intuition et un certain nombre de faits permettent de m'orienter sur cette hypothèse-là. Mais s'il s'avérait qu'une colonne était exclusivement du côté du religieux, par exemple, alors que l'autre colonne était presque exclusivement du côté du profane, alors j'aurais établi qu'à travers ce partage symbolique organologique, se profilait évidemment une autre opposition dont les fondements étaient de nature religieuse. Alors, l'espace qui m'est imparti ici ne me permettra pas de développer de façon globale et précise et détaillée cette démonstration qui reste quand même très intéressante. Je vais essayer d'en dégager les principaux axes et toujours de convoquer l'iconographie dans cette démonstration. Puisque nous avons ici affaire essentiellement à une opposition de la corde et du vent, je vais travailler sur ces deux notions d'abord. La corde est un matériau organique qui provient des boyaux d'ovins. Le mouton, l'agneau, la brebis occupent une place importante dans la symbolique de la pastorale chrétienne. L'agneau de Dieu, le berger, le bon pasteur, etc. Évidemment, le fait que l'on se serve des boyaux d'ovins pour faire des cordes d'instruments de musique n'est absolument pas neutre dans les cultures occidentales chrétiennes. Mais ce matériau organique animal, la patristique, c'est-à-dire en fait l'ensemble des textes dogmatiques et religieux des pères de l'Église, en a fait un matériau d'origine humaine, dans son allégorie. Pas de n'importe quel homme, celui qui s'est incarné pour permettre la rédemption, c'est-à-dire le Christ. Et donc, on va nous dire que les cordes des instruments de musique sont faites de chair christique. Évidemment, c'est une allégorie. Alors, la corde va rentrer dans tout un vocabulaire anatomique qui est le vocabulaire humain. On va parler des cordes vocales, bien sûr, mais on parle aussi des cordes dorsales et on ne compte plus les allégories qui font des ligaments, des nerfs, etc., des cordes. Je rappellerai d'ailleurs que la corde de l'instrument de musique avait deux termes dans ces époques anciennes, dont l'un était le mot nervus, qui est donc le nerf, tout simplement. Ces cordes sont tendues sur la caisse de l'instrument de musique par le biais de chevilles, que l'on appelle jusqu'à la fin du XVIe siècle, indifféremment, des clés ou des clous. Mais pas encore des chevilles. Chevilles, ça arrive, nous dit-on, à partir de 1599. Avant, on n'utilise pas chevilles. Et si on utilise clé ou clou, c'est que les deux termes ont la même origine étymologique. Alors de la sorte, métaphoriquement, l'instrument de musique à cordes, il est fait de chair christique, la corde, qui est tendue sur du bois à l'aide de clous. Alors évidemment, il est le symbole de la croix, surtout lorsqu'il appartient à la grande famille des cithares dont font partie les psaltériens. Et voilà ce qu'écrit saint Augustin, parce que toutes ces images, évidemment, elles sont explicitement mentionnées dans les textes des pères de l'Église. Là, il faut aller dans cette littérature extrêmement abondante, qui est majoritairement latine, mais un petit peu grecque aussi. Et saint Augustin écrit, par exemple, « Dans le tympanon, le cuir est tendu. Dans le psalterion, ce sont les cordes. Dans les deux instruments, la chair est crucifiée. » Donc là, c'est absolument explicite. Le psalterion, qui est une cithare, un instrument à cordes, métaphoriquement, c'est la croix du Christ. Et cette allégorie, on va la retrouver, elle va traverser les siècles. Alors là, on est vraiment dans la symbolique religieuse extrêmement stable, totalement transhistorique. Le Moyen-Âge est chrétien, l'époque baroque est chrétienne. On véhicule les mêmes types de représentations symboliques. Au XVe siècle, on connaît un grand manuel d'inquisition anti-sorcière qui s'appelle le Maleus Maleficarum, qui a été écrit par deux inquisiteurs qui devaient permettre d'orienter le choix des tribunaux de l'Inquisition dans les procès de sorcellerie, notamment de reconnaître les vraies sorcières des fausses sorcières. Et à un moment, tout d'un coup, de ce traité, on apprend que si David est parvenu à guérir Saül de sa transe de possession, en tout cas c'est comme ça que l'interprète Gilbert Rouget, c'est parce qu'il a joué de sa cithare qui symbolisait métaphoriquement la croix du Christ, et que la croix a mis en fuite les mauvais esprits qui s'étaient emparés de Saül. Donc on voit comment cette métaphore christologique de la corde et de l'instrument à corde se traverse les siècles et ressurgit périodiquement au Moyen-Âge, à l'époque du baroque, etc. Pour les instruments à cordes, il y a une autre allégorie qui vient se rajouter, qui découle de la symbolique chrétienne des nombres. Parce que l'une des cithares, qui était le psalterion, était un instrument à 10 cordes. Du coup, il va devenir un instrument décacorde et il va figurer symboliquement le décalogue. Donc on voit bien comment le poids symbolique de ces instruments à cordes se renforce par des métaphores qui sont connexes. D'ailleurs, saint Augustin reprend cet argument dans ses confessions quand il dit « Le psalterion à 10 cordes signifie les 10 commandements de la loi ». Alors là, on est vraiment dans le canon le plus total et d'ailleurs... J'introduis là quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est que la cithare à cordes arabe, qui s'appelle le canon, provient du mot grec le canon, et on retrouve exactement la même origine, le canon, le droit, le dogme, etc. Donc en fait, on a des symboliques qui sont plus larges que la simple Europe occidentale et que la simple chrétienté, qui puisent vraisemblablement à un fond symbolique plus largement méditerranéen et ancien. Un autre aspect de cette organologie des instruments à cordes, je l'ai dit, c'est la notion de résonance, qui est elle-même très religieuse, parce que un temps qui, un son résonnant, c'est un temps qui dure. Et là, on est dans la métaphore du temps étiré, qui est le temps divinisé, qui est le temps de l'éternité. Et un son résonnant, c'est un son qui dure jusqu'à mourir. Naturellement, c'est un son dont la durée appartient métaphoriquement à Dieu. Ce n'est pas un son sur lequel le musicien intervient lui-même. Au contraire, par exemple, de la flûte ou du hautbois dans lequel on souffle, et si le musicien interrompt son souffle, il interrompt le son. Le son résonnant se poursuit au-delà de la volonté du musicien, à moins que le musicien intervienne physiquement sur l'instrument, bien sûr. Alors, dans ces instruments résonnants, ce sont les sitars et les psaltérions qui font l'objet de cette allégorie. Selon que la caisse de résonance est située dans la partie basse de l'instrument quand on en joue, c'est le cas de la sitare va symboliser la vie terrestre du Christ. Ou alors, si la caisse de résonance est située dans la partie haute de l'instrument, ce qui est le cas du psaltérion, elle va symboliser l'ascension au ciel du Christ et la victoire sur la mort. Dans les deux cas, une symbolique extrêmement forte, bien sûr. Enfin, ces instruments harmoniques, pour la plupart, sont harmoniques. Je l'ai dit, c'est le cas des harpes, des luths, des lyres, des sitars, par exemple. Or, l'harmonique, bien sûr, est l'objet d'allégories très religieuses, bien avant l'époque chrétienne. Hein, Platon déjà fait de l'harmonie un critère philosophique extrêmement valorisé et puissant, puisque, dit-il, l'harmonie, c'est l'union des contraires, l'union de l'aigu et du grave, donc c'est la perfection même. Et cette perfection est reprise dans le discours chrétien par les premiers pères de l'Église, par exemple saint Jean Chrysostome, qui était un père grec de l'Église, et qui disait que la cithare, je le cite, c'est la symphonie des vertus. Pour un autre père, qui s'appelait Eusèbe de Césarée, tout le peuple du Christ peut être nommé une cithare, car il est composé de différentes âmes, comme celle-ci de plusieurs cordes, mais il n'envoie à Dieu qu'une seule prière et qu'une seule action de grâce. Et on voit encore une autre symbolique de la cithare, ici, dans sa dimension harmonique, qui est donc extrêmement religieuse. Alors l'iconographie restitue naturellement cette dimension religieuse des instruments bas, qui sont des instruments à cordes et souvent des instruments harmoniques. Je commencerai avec ce document, qui est un document du troisième quart du XVe siècle, et qui figure l'adoration de l'agneau mystique. On y voit un certain nombre de prêtres vénérer l'agneau mystique, donc, et jouer des instruments qui sont des instruments bas, un instrument à clavier, des harpes, un luth, des flûtes basses. Donc on est vraiment dans cet instrumentarium. Ici, c'est la Vierge qui est représentée avec l'enfant. L'iconographie mariale est extrêmement importante. Il y a aussi l'ascension de la Vierge, le couronnement de la Vierge, etc. Mais la Vierge et l'enfant, c'est un des grands thèmes, évidemment, iconographiques de l'iconographie chrétienne. Et très souvent, la Vierge est représentée avec des anges musiciens. C'est ici le cas dans ce tableau de l'école d'Anvers qui date à peu près de 1500. Et on s'aperçoit une fois de plus que ces instruments sont le luth et la viole archée, c'est-à-dire des instruments à cordes du bas. Un autre grand personnage religieux qui est un instrumentiste d'instruments à cordes bas, c'est le roi David. Le roi David joue la harpe dans toute la représentation iconographique chrétienne, comme ici sur ce bas-relief de la basilique Saint-Sernin de Toulouse, qui date du XIIe siècle. Mais véritablement, le document fondateur de toute cette iconographie musicale chrétienne, c'est le portique de la gloire de Saint-Jacques de Compostelle, que l'on voit ici, qui a été sculpté en 1188 par le maître Matteo, et qui représente le Christ entouré des 24 vieillards de l'Apocalypse, qui sont toujours des instrumentistes, et qui jouent de tous les instruments à cordes de l'instrumentarium du bas médiéval. Alors on trouve l'ancêtre de la viola roux qu'on appelait l'organistrum, on trouve des harpes, on trouve des sitars, on trouve des vielles à archer. Et ce qui est intéressant dans ce document de surcroît, c'est qu'il est fait à l'échelle 1, c'est-à-dire que les anges musiciens et les vieillards ont la dimension humaine, ce qui fait que leur instrument a la véritable dimension de cette époque de la fin du XIIe siècle. Et c'est entre autres, mais essentiellement à partir de ce portique, de cette sculpture-là de la fin du XIIe siècle, que l'on a reconstitué ces instruments médiévaux et qu'ils peuvent ressonner aujourd'hui dans des concerts de musique médiévale. Les anges sont également des instrumentistes qui jouent ce type d'instrument bas à cordes, comme ici cette cithare dans cette peinture du cloître des Jacobins de l'église des Jacobins de Toulouse. On est en 1340 à peu près. Et les anges vont rester des joueurs d'instruments bas harmoniques à cordes, y compris à l'époque baroque, dans ce concert d'anges de Philippe de Champaigne, donc on est au XVIIe siècle, et l'on voit un ange jouant d'un luth, d'un magnifique luth, c'est une magnifique gravure évidemment. Mais au-delà de personnages religieux, qui sont pratiquement tous des joueurs d'instruments bas à cordes, ces instruments se retrouvent dans des contextes liturgiques ou religieux. Ici la procession, c'est une procession liturgique dans un missel de Lombardie qui date de 1380, et l'on peut voir que derrière les reliques portées ici dans cette procession, il y a un joueur de harpe, un joueur de cithare ou psalterion, et un joueur de viol à archer. Alors on voit donc ici que les instruments de la première colonne du bas ont une symbolique exclusivement religieuse, extrêmement religieuse, en tout cas tous ceux qui sont des instruments à cordes, et cette iconographie historique, chrétienne, musicale, corrobore complètement cette religiosité. Le vent fonctionne sur un principe symbolique totalement différent. Le vent est un élément équivoque au plan de sa symbolique religieuse, parce qu'il y a quand même une idée, qui est quand même une idée importante, c'est que le vent, c'est le souffle, c'est le souffle de vie, et qu'on nous dit dans l'Ancien Testament que quand Yahvé créa l'homme, il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Donc la vie, c'est le souffle. C'est une ancienne campagne, vous vous souvenez, contre la tuberculose. Mais en même temps, quand quelqu'un est en train d'agoniser, au moment de son agonie, dans le folklore français en particulier, on met au pied du mourant des cierges qui brûlent tant que la personne est vivante, et quand elle est décédée, on éteint ces cierges parce qu'on estime qu'il n'y a plus de souffle de vie. L'âme, c'est le souffle de vie. Alors, cela, évidemment, fait du souffle un élément quand même dont la symbolique est religieuse et particulièrement valorisée. Et c'est vraisemblablement ce qui fait que l'orgue est devenu un instrument religieux, que le serpent, malgré sa forme, c'est intéressant de voir des symboles inversés comme ça. Le serpent, c'est quand même l'animal de la tentation et du péché et de la condition mortelle de l'homme. Le serpent qui devient le grand instrument religieux du baroque qui va soutenir le chant à l'église. Donc c'est quand même très intéressant de voir que ces instruments avant, malgré parfois leur organologie évocatrice, parce que ce sont des instruments à vent, ont parfois un rôle religieux. Mais cette symbolique religieuse du vent est extrêmement minoritaire, elle est très marginale, parce que le vent penche beaucoup plus du côté du profane, du mauvais profane même, qui est le diabolique, le sorcellaire, le macabre, etc. Tout d'abord, le vent, c'est l'apanage du diable. Il n'y a pas de lieu plus venteux que l'enfer. Mais plus que le diable, c'est vraiment l'apanage des sorcières. Les sorcières, ce sont les professionnels du déclenchement du vent comme de son arrêt. On dit aussi qu'elles tuent de leur haleine leurs victimes, en projetant leur haleine au visage. On dit qu'elles soufflent leurs victimes. Et c'est d'ailleurs une façon, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente aussi dans les procès de sorcellerie. Le vent propage les maladies contagieuses en tout cas, c'est ce qu'on pense, et notamment la lèpre et la peste. Et on dit qu'on ne doit jamais être dans le vent d'un lépreux. Il faut toujours prendre garde, évidemment, à cela. Le vent provoque la mélancolie. On dit qu'il est responsable de nombreuses affections psychologiques, et c'est la raison pour laquelle on a recommandé, à partir du XVIIe siècle, les médecins ont recommandé d'aérer les maisons. Parce qu'on estimait que rester dans un univers confiné provoquait justement la mélancolie. Et si le vent provoque la mélancolie, c'est qu'il a une étymologie commune avec la folie. Le vent et la folie proviennent du même mot latin qui est folis. Au Portugal, d'ailleurs, il existe une cornemuse dans le Traço Montes qui s'appelle la Gaita de Foles, littéralement la cornemuse du vent, la cornemuse à vent. C'est, à ma connaissance, le seul instrument de musique populaire qui a conservé dans son intitulé même ce vieux mot de Foles, qui était en fait la folie. Pourquoi le vent caractérise-t-il la folie? Parce qu'au Moyen-Âge, on disait que le fou avait une tête vide, pleine de vent. Alors, le vent, c'est aussi un puissant intersigne. Il annonce une mort imminente. Il connote l'orgueil, la notion de pouvoir. Et d'ailleurs, à partir du XVIIe siècle, on va voir fréquemment les ecclésiastiques fustiger ce qu'ils appellent la gloire venteuse. Et notamment, utiliser la métaphore de l'enflure. L'enflure qui va caractériser le pouvoir, l'orgueil du pouvoir, les fastes du pouvoir. Et cela revient dans plusieurs grands textes de la chrétienté occidentale. Nous avons ici une image qui est très intéressante, qui date de la première moitié du XIIIe siècle, qui est extrait de Guillaume d'Igueleville, c'est le pèlerinage de la vie humaine, et c'est un texte allégorique, tous les personnages sont des allégories, alors on a flatterie, orgueil, etc., qui sont des personnages
représenté ici sous forme humaine, anthropomorphe. Et dans cette image, nous avons Flatterie qui porte Orgueil sur son dos. Et donc le pèlerin croise ces deux personnages allégoriques, négatifs bien sûr. On s'aperçoit que Orgueil porte en bandoulière soufflée, donc le vent connote bien l'orgueil, mais en plus, si ce n'était pas assez explicite, il tient un cor à la main dont il s'apprête à jouer. Alors l'orgueil est vraiment dans le registre du vent et du mauvais vent. Le vent, c'est aussi le destin, mais le mauvais destin. Et en même temps, le vent a une symbolique érotique qui est extrêmement puissante. Pour ce qui est de la France, par exemple, et de la France du Midi, qui est parfois une France venteuse, qui connaît plusieurs régions venteuses, il y a tout un folklore contre le vent qui est accusé d'être un acteur érotique, d'agresser sexuellement les femmes, de les féconder même. Et donc on apprend aux petites filles des formules conjuratoires, par exemple, pour se protéger contre les bourrasques de vent, et ceci dès leur plus jeune âge. Par exemple dans le Gard, qui est une région relativement ventée. Alors, bien sûr, les instruments à vent, dans leur majorité, vont avoir une symbolique profane, appuyée. Pour la plupart, la symbolique est pastorale. Beaucoup de ces instruments symbolisent le berger, la cornemuse en particulier. Mais souvent, ils vont symboliser le pouvoir politique, puisque j'ai dit tout à l'heure que l'éclat de ces instruments hauts venait symboliser les hauts personnages et les hauts pouvoirs. Et donc, c'est bien l'image de ce blason sonore, dont j'ai dit aussi que l'une des étymologies, c'était l'ancien allemand blasen, qui voulait dire souffler. Mais au-delà, ces instruments à vent vont constituer le climat sonore des sabbats de sorcières. Voilà une image ici, qui est le sabbat des sorcières sur le mont Brocken en Allemagne, où l'on voit essentiellement des joueurs de, ces instruments-là, c'est-à-dire des cornets, des trompes, cornemuses, hautbois, dans un ensemble de séquences qui constituent, dans son ensemble, le rituel du sabbat. Une autre image nous ramène ici dans l'évêché de Trèves vers 1620, où dans ce sabbat des sorcières, on s'aperçoit tout à fait en bas à droite que la mort, qui est un personnage ici glorieux et royal, la reine mort, s'avance précédée d'un joueur de cornemuse qui, par la symbolique de l'instrument et la puissance du son avant de cet instrument haut, sont les attributs organologiques du diable. Le diable est flûtiste, cornemuseux, oboïste, et l'iconographie atteste largement ce thème. Et puis, les instruments symbolisent la mort, notamment à travers le thème de la danse macabre, qui est aussi un thème iconographique et littéraire, et à travers le thème de l'apocalypse. Alors, nous verrons ici, par exemple, une danse macabre qui se trouve d'ailleurs dans la région niçoise, puisque celle-ci provient de l'église Saint-Jacques-le-Majeur de Bar-sur-Loup, et c'est donc une danse macabre, une peinture sur bois du XVe siècle, dans laquelle on voit dans toute la partie basse le texte moral didactique de la danse macabre, qui doit rappeler au pêcheur sa condition de mortel, etc. Mais dans la partie haute de la peinture, c'est la danse elle-même qui est sonorisée ici par un joueur de flûte et de tambour. Donc on est bien dans cette symbolique du vent. D'autre part, dans la chronique de Nuremberg de 1493, nous avons des squelettes qui dansent au son du hautbois, ici. Et donc, là aussi, le son haut de ces chalumis et de ces hautbois est tout à fait du registre du mort, de la mauvaise mort et du macabre. De toute façon, d'une façon plus générale, on va retrouver cette symbolique dans l'Apocalypse, notamment dans la tenture de l'Apocalypse du château d'Angers de la fin du XIVe siècle, où l'on voit ici l'ange, par le jeu du corps et de la trompe de l'Apocalypse, instituer le chaos à l'échelon de la terre, déchaîner les éléments pour, une fois la mort installée et les morts ressuscités des tombeaux, introduire le jugement dernier, qui est donc l'aboutissement final de l'eschatologie, cette théologie des temps ultimes. Enfin, les instruments à vent évoquent ce que l'on appelait les mauvais usages de la parole, c'est-à-dire la médisance, l'hypocrisie, le mensonge, la vantardise et autres. Quand on veut symboliser cela d'un point de vue iconographique, on le fait en se référant à un instrument à vent, comme le fait ici, par exemple, le livre de prière dit de Hildegard Bingen, qui date de la fin du XIIe siècle, et dans lequel on voit ici un certain nombre d'enluminures qui retracent les béatitudes et les malédictions. Alors, on connaît ça, hein, bienheureux, les pauvres d'esprit, malheureux, etc. Et ça, ici, les béatitudes se trouvent dans la partie haute de l'image, ce qui est tout à fait cohérent avec le code iconographique. Les malédictions se trouvent dans la partie basse. Et on voit bien que les deux personnages qui sont dans la partie basse de cette image, qui sont donc les maudits, sont dans une position agressive, sont probablement en train de pécher au niveau de la langue, hein, puisque véritablement il y a une invective qui suit cette attitude corporelle agressive, et on voit que leurs paroles sont symbolisées ici par l'usage de deux objets de forme conique qui en plus possèdent des points qui ressemblent étrangement à des trous de jeu, tout cela évoquant quand même un instrument de type hautbois corné, dont le son, pour bien que l'on comprenne, est figuré par une tête de monstre ou une tête de diable, et donc est un son diabolique. Alors on s'aperçoit que si la partie gauche de ma colonne de tout à l'heure, des bas instruments, est essentiellement religieuse, la partie droite, la partie des hauts instruments, est également essentiellement profane et dans le mauvais profane. Et donc cette classification binaire des hauts et des bas instruments, ce n'est ni plus ni moins qu'un partage religieux de l'instrumentarium en fonction de critères moraux, esthétiques et religieux. Cette recherche, je l'ai publiée plus tardivement dans cet ouvrage paru au CNRS il y a maintenant 4 ans et qui présentait cette recherche d'anthropologie musicale historique qui a prolongé la recherche d'histoire sociale sur le métier de ménétrier. Dans quelle posture de recherche ai-je mené cette recherche d'anthropologie historique? Je dois dire que, même si elle travaille sur les symboliques du sonore en France, jamais je n'ai adopté cette étude dans une perspective symboliste. Cela ne m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était l'étude des fonctions, des usages musicaux, l'ancrage social des musiques et leur évolution. Le symbolisme, en effet, ne doit jamais être traité comme un objet autonome. Et il est donc indispensable, d'un point de vue méthodologique, de mettre en perspective le logos avec la pratique, dans des rapports dialectiques avec la philosophie, la théologie, l'histoire, celle-ci se nourrissant aussi du témoignage contemporain de l'ethnographie. Et c'est la raison pour laquelle je me suis entouré d'une documentation véritablement pluridirectionnelle, constituée d'écrits théoriques et religieux, philosophiques et spéculatifs sur la musique, donc les traités, mais aussi l'iconographie, on l'a vu, le théâtre liturgique et médiéval, une documentation historique, bien sûr, faite de documents d'archives, de chroniques, de récits de voyage, d'autobiographies, et puis une documentation ethnographique importante, puisqu'on va retrouver dans la mémoire orale, dans la littérature orale, au XIXe jusqu'au XXe siècle, de grandes correspondances symboliques avec les représentations du monde de la mort, de l'au-delà infernal, de la sorcellerie, des caractéristiques sonores attachées à ces univers. Et cela a été collecté encore, par exemple, dans les Alpes, par Charles Joysten, jusque dans les années 1960, où on lui a encore parlé de récits de sabbats de sorcières. Donc on voit bien que la littérature orale est un assez bon conservatoire, finalement, de ces croyances anciennes, et elle ne doit pas être négligée par l'anthropologue et par l'historien. Quels sont les apports principaux de cette recherche, et autour de quels axes cette recherche s'est organisée? Eh bien, tout d'abord, je crois qu'elle apporte des conclusions dans le domaine de l'anthropologie des oppositions symboliques, puisque le haut et le bas, c'est une des oppositions symboliques médiévales, avec droite, gauche, intérieur, extérieur, etc. Tous les anthropologues médiévistes l'ont montré, de Jacques Le Goff à Gourevitch, en passant par Jean-Claude Schmitt, etc. C'est aussi un apport à l'anthropologie des classifications instrumentales, puisque là nous voyons surgir une classification du haut et du bas que les ethnomusicologues ne connaissent pas et que les musicologues n'ont jamais entrevue non plus. Par ailleurs, c'est une contribution à l'anthropologie de la mort et des rites funéraires, puisque pour mettre en exergue le côté profane et mauvais profane du vent, il a fallu naturellement que je travaille sur cette symbolique. Cette recherche a des correspondances également et des prolongements dans le domaine de l'anthropologie de l'esthétique. Et en particulier, j'ai été amené souvent à m'interroger sur la distance qu'il y avait entre les écrits spéculatifs et didactiques des traités et la pratique musicale de ces époques-là. On trouve dans les traités de nombreux renseignements qui sont extrêmement intéressants du point de vue de l'anthropologie et de l'esthétique,
Pour autant, est-ce que ces traités étaient réellement mis en application dans une pratique musicale contemporaine? Et y a-t-il ou non un fossé, un hiatus entre pratique et discours didactique? Et puis je crois que certaines de mes conclusions peuvent servir à l'histoire de la musique occidentale en général. Par exemple, j'ai travaillé sur la question du registre grave et son anthropologie. J'ai travaillé également sur la question des registres de l'harmonie, de la verticalité harmonique, de la polyphonie. J'ai travaillé aussi sur l'éthos de la douceur sonore, l'éthos religieux de l'harmonie, le rôle très religieux de la basse continue. J'ai même travaillé sur la spatialisation de l'aigu et du grave dans le graphisme musical. Je pense d'une certaine manière que quelques-unes de ces conclusions peuvent peut-être concerner la musicologie classique savante. En tout cas, je l'espère, parce que je pense que cette recherche est totalement au cœur de plusieurs disciplines et totalement transversale. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de travailler sur des formes d'établissement des codes sonores de l'emblématique politique. Ça, c'est vraiment... Et là, du coup, ça prolonge complètement mes recherches précédentes sur la musique des ménétriers. Ces ménétriers sont les musiciens qui sonnent les pouvoirs. Comment le pouvoir se singularise-t-il du point de vue du sonore? Quels sont les codes sonores de l'emblématique politique? Là, cela va m'obliger à faire de l'herméneutique, à proposer une sémiologie de la musique. Et en même temps que je vais essayer d'établir les codes de l'emblématique politique, je me dois de réfléchir à l'établissement des codes sonores du religieux et de la religiosité, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, j'ai été amené à proposer, à relire et à proposer des conclusions différentes pour mon étude de l'histoire des ménétriers. C'est-à-dire qu'en fait, entre histoire sociale et anthropologie de la musique, c'est un va-et-vient permanent. Ma recherche en anthropologie m'a permis de redéfinir de nouvelles conclusions pour mon histoire sociale des ménétriers que je voudrais présenter rapidement ici, de façon schématique. Nous avons ici un clivage religieux et profane du bas et du haut sonore autour d'un certain nombre de critères qui ont véritablement contribué à fabriquer une théologie du sonore. Cette théologie du sonore, c'est la douceur, l'harmonie, le grave, contre la puissance sonore, la monodie ou la stridence, qui sont caractéristiques des musiques et des instruments de ménétrier. Donc, on s'aperçoit que depuis les époques reculées, depuis le début pratiquement de l'ère chrétienne, on lit ça chez Chrysostome, saint Augustin, etc., Basile et d'autres, il y a véritablement l'établissement d'un code théologique sonore qui, sur les trois critères donc de la douceur, de l'harmonie et du grave, détermine un code toléré, disons, pour l'expression sonore de la religiosité. Et dans certains cas, d'ailleurs, c'est le cas de saint Augustin par exemple, on va tolérer la présence du chant dans certains offices, alors qu'on sait que d'autres prélats ont toujours été extrêmement intransigeants et rigoureux à cet égard. Donc il y a une dichotomie qui est introduite depuis pratiquement 2000 ans maintenant de l'ère chrétienne, et qui va stigmatiser d'une certaine manière, par contre-coup, les musiques et les musiques instrumentales des ménétriers, rejetées dans le camp de la puissance, de la monodie, de la stridence. Alors bien sûr, cette deuxième partie droite de mon tableau, là, c'est totalement la musique des ménétriers. Ce n'est pas exclusivement la musique des ménétriers, mais enfin la musique des ménétriers, elle est là, bien sûr. Cette musique des ménétriers, au Moyen-Âge, elle joue un rôle politique que j'ai étudié précédemment avec mon histoire sociale, puisqu'elle vient contribuer à la création d'un blason sonore et politique qui est celui de l'élite médiévale, de l'élite d'Ancien Régime, de l'aristocratie, de la noblesse et des pouvoirs. Très bien. En même temps, cette élite, l'aristocratie, la noblesse, va commencer à cultiver, alors d'un point de vue tout à fait privé, pas protocolaire et politique, un goût pour une esthétique musicale radicalement aux antipodes de la musique ménétrière, que j'appellerais de façon un peu schématique et réductrice la musique basse, c'est-à-dire une musique douce, harmonique, grave, développant des registres et des canons musicaux aux antipodes des musiques ménétrières. Et on voit effectivement des souverains, des rois, des seigneurs, des grands aristocrates pratiquer eux-mêmes ces musiques dans un rôle amateur, bien sûr, mais jouer très bien ces instruments bas, pratiquer ces musiques, et on s'aperçoit que cette musique basse, hein, que j'appelle basse, va devenir véritablement un marqueur social également et un marqueur politique. À partir du XVIe siècle, du Concile de Trente notamment, et avec les académies du XVIIe siècle, ces élites vont se marquer dans le camp du religieux. Pourquoi ? Parce que le religieux, comme je l'ai dit, a introduit depuis presque 2000 ans
une théologie du sonore qui va aux antipodes de la musique des ménétriers. Et l'académisme institue un fossé définitif entre musique du savant et musique du populaire. Donc si l'on veut se démarquer du populaire, il faut bien se rapprocher du pôle qui s'est toujours opposé au populaire du point de vue du sonore, c'est-à-dire du religieux. Et alors là, on va constater un rapprochement entre, alors d'abord une séparation entre les élites et les ménétriers, et un rapprochement symbolique, un ancrage des élites dans le camp du religieux. Alors, bien entendu, il y a des causes politiques aussi à cela, en particulier au lendemain du Concile de Trente, la cour royale va se marquer dans le camp du religieux, puis il y a des conflits religieux que l'on connaît, etc. En tout cas, il y a maintenant de nouveaux codes musicaux, nouveaux codes chorégraphiques également, avec l'apparition des basses danses. La basse danse, qui est une danse corporelle douce, retenue, qui va marquer véritablement la cour, l'aristocratie. Et puis le rôle très important que va jouer la basse continue dans une esthétique du baroque, du grave et de l'harmonie, qui, alors, elle, est aux antipodes totales de la musique des ménétriers. Donc, on voit bien que cette anthropologie historique, musicale, apporte maintenant des conclusions totalement différentes qui vont bien au-delà d'une simple hypothèse politique, sociologique, de cette histoire des musiques ménétrières. Et donc, pour terminer, je ferai la conclusion suivante. C'est que je me suis intéressé à l'histoire de cette musique sociale, je le rappelle, grâce à l'ethnomusicologie. C'est parce que dans un de mes terrains, j'avais entendu le mot ménétrier, que j'ai eu l'idée de demander le document des statuts corporatifs ménétriers et de commencer une histoire de 15 ans d'histoire sociale de la musique ménétrière. Donc, à l'origine, moi, de ma propre histoire sociale de la musique, il y a le terrain. C'est le terrain qui a commandé mon investigation historique. Et puis, cette investigation historique, par la force des choses, m'a obligé à porter mon regard vers un travail beaucoup plus anthropologique. Et donc, cette étude historique, notamment sur les ménétriers, a mis en évidence depuis, et ça c'est quelque chose sur quoi je travaille maintenant depuis à peu près 4 ou 5 ans, une imbrication très étroite des musiques tziganes et ménétrières. Et donc, là, si les musiques ménétrières ont disparu de la France depuis le XVIIe, XVIIIe siècle à peu près, les musiques tziganes, elles existent toujours. Alors peut-être pas en France, mais en tout cas en Europe centrale, en Europe balkanique, en Hongrie, etc. Il y a des bandes de violons tziganes dans ces pays-là, comme il y avait des bandes de ménétriers en France sous l'Ancien Régime. Et peut-être que l'étude minutieuse de cette musique instrumentale tzigane, notamment des bandes de violons, permettrait d'apporter des réponses maintenant sur le jeu historique du ménétrier, sur l'organisation musicale, y compris polyphonique et harmonique de cette musique, pour laquelle nous n'avons strictement aucun renseignement à travers notre documentation historique occidentale. C'est-à-dire que, si je résume bien, du terrain, je suis arrivé à l'histoire, puis à l'anthropologie, mais ma fréquentation intime de l'histoire m'a permis de revenir tout d'un coup vers le terrain, puisque je me suis aperçu de cette présence des tziganes et les tziganes qui continuent toujours à jouer ces musiques aujourd'hui. Et c'est donc le fait de revenir dans les terrains de l'ethnomusicologie tzigane actuelle qui va me permettre, par contre-coup, de réinterroger rétrospectivement ces musiques ménétrières pour lesquelles je n'ai rien d'autre que des images, des textes et des documents d'archives écrits. Alors, je dirais pour terminer qu'on s'aperçoit que ethnomusicologie et histoire ne sont pas en opposition, comme on l'a longtemps prétendu et pratiqué, mais au contraire sont en complément total, en tout cas pour une étude globale du fait musical populaire. Dans toutes les sociétés, c'est évident. En Occident, c'est encore plus vrai, notamment en France. Je vous remercie.